Le quorum étant atteint, donc nous allons pouvoir délibérer. Je vous demanderai gentiment de vous bien vouloir couper vos téléphones pour qu'on ne soit pas dérangé, le mettre en silencieux, pour que ça ne parasite pas dans notre bande son. Alors, j'ai quelques pouvoirs. Madame Marie-Claire Dumès qui fait pouvoir à moi-même, Monsieur Dominique Savary. Madame Véronique Dufief, pouvoir à Sophie Smet. Madame Émilie Parent, pouvoir à Monsieur Philippe Poteau, derrière Marie-Claire. Monsieur Éric Gardin, pouvoir à Monsieur Yves Tonneau. Et Madame Bruna Dana, pouvoir à Marie-Claire Brugman. Je ne sais plus où elle est. Alors, face de moi. Madame Marie-Paul Courbet, qui est excusée. Et une information, Monsieur Axel Smet, qui est démissionnaire. J'ai reçu son courrier il y a 2 jours, donc il est démissionnaire. Donc au prochain conseil, la personne suivante sur notre liste, c'est elle qui, si elle ne démissionne pas bien sûr, c'est elle qui me fera les demandes et c'est elle qui montera dans notre conseil municipal. Je vous propose donc en secrétaire de séance, Madame Alexa Dussol, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Afin de respecter le couvre-feu, je vous propose que cette séance soit réunie, remise à huis clos. Bonsoir. Donc je dois mettre au vote, hein, c'est à huis clos, donc je dois vous demander à l'Assemblée de bien vouloir voter pour la mise en huis clos de cette séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis nous arrivons donc au présent, personne ici présente, la présentation du label Commune Zéro Déchet par le CIAVED, par Madame Laura Musi et Monsieur Damien Santerre. Donc, suite à notre candidature au label Commune Zéro Déchet, le CIAVED, il va nous faire une présentation que l'on va voir juste derrière moi sur le mur. Je vous laisse la parole, Madame et Monsieur. Le micro. On vous laisse un micro, ouais, s'il vous plaît.
Merci. Ça fonctionne. D'abord, pour commencer, bonjour à tous. Rapide présentation, ma collègue Laura est donc chargée de mission prévention au CIAVED et moi-même qui suis coordinateur des ambassadeurs du tri. Donc on va détailler un peu plus nos missions par la suite. Donc rapidement, un petit zoom sur le territoire du CIAVED pour signaler que nous avons donc 3 territoires au total pour la gestion des déchets, ce qui représente 113 communes et à peu près 300 000 habitants. On traite 220 000 tonnes de déchets par an et les habitants en produisent 200 000. On a une moyenne qui est de 200 000 tonnes de déchets produites par habitant par an. Donc après, vous avez les statistiques aussi, ça c'est par an pour faire la comparaison avec la moyenne nationale. Et donc on a nos missions qui sont, on commence par la sensibilisation et la prévention des déchets. Donc, qui consiste à aller voir un maximum les habitants pour sensibiliser sur que ce soit sur le tri ou la réduction des déchets. On a ensuite la gestion des déchetteries, donc le réseau de 16 déchetteries qui est réparti sur le territoire du CIAVED. Ensuite, les missions collecte, donc qui sont les plus importantes, on va dire, avec la gestion de la collecte en porte-à-porte, mais aussi en point-d'apport volontaire. Puis aussi les services spéciaux comme les encombrants, l'amiante et bientôt la collecte des déchets verts. Et enfin, le traitement et la valorisation des déchets qui sont eux assurés par les différentes installations qu'on a, donc le CVE de Douchy-les-Mines, le centre de tri de l'Ourche et les différentes plateformes de compostage. On va donc rentrer sur le label avec Laura qui va prendre le relais.
Alors, du coup, le label Commune Zéro Déchet, c'est une action du service sensibilisation et prévention des déchets dont on fait partie tous les deux. Et on a décidé de mettre en place un label Commune Zéro Déchet parce qu'on a beaucoup de communes qui font des choses chacune de leur côté pour réduire et gérer correctement ces déchets et qui ne sont finalement pas mises en avant. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu un peu comment se passe le dossier d'inscription et tout ça au label, mais on va vous le rappeler juste après. Donc on a envoyé aux communes un dossier de candidature avec des actions sur lesquelles vous pouvez vous positionner et qui rapportent un nombre de lucioles. À partir du moment où on va obtenir 40 lucioles, vous êtes labellisé commune zéro déchet. Donc elles sont divisées en plusieurs axes. Vous avez 4 axes en tout. Et on va les voir juste après. Donc le label, il va vous permettre de vous mettre principalement en accord avec la réglementation. La présentation, on pourra vous la laisser aussi pour que vous puissiez voir les différentes échéances qui vont arriver. Mais notamment, vous avez en 2020, par exemple, l'interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans la restauration scolaire qui a eu lieu l'année dernière. En 2023, l'extension des consignes de tri. En 2024, l'obligation de proposer quelque chose pour permettre le tri à la source des biodéchets. Les biodéchets, c'est tout ce qui est déchets alimentaires qui vient de la cuisine ou du jardin. Et en 2025, la fin des contenants alimentaires en plastique dans la restauration collective. Vous avez plusieurs échéances comme ça qui vont bientôt arriver et qui vous seront détaillées dans la présentation quand on vous la transmettra. Donc voilà. Comment procéder ? Donc la commune a rempli un dossier d'inscription. On a demandé un référent dossier pour qu'on puisse avoir un interlocuteur principal qui soit au courant de tout ce qui se passe au niveau du dossier label commune zéro déchet. Et surtout, donc ça permet de faire un état des lieux de ce qui existe déjà en termes de réduction de déchets au sein de votre commune, que ce soit par exemple un composteur à l'école, un composteur dans les cimetières, que ce soit peut-être des actions qui visent à réduire le gaspillage alimentaire au sein de la restauration scolaire. Donc tout ça, on va pouvoir faire un état des lieux de ce qui existe dans votre commune et peut-être déjà gagner des lucioles. Donc, les actions sont divisées en 4 axes. Le premier axe, ça va être l'axe biodéchets. Le deuxième axe, le tri des déchets. Le troisième axe, l'éco-consommation. Et le quatrième axe, la santé environnementale. Donc, on va vous détailler ce que le CIAVET peut vous apporter dans les différentes actions proposées dans les axes. Donc, le premier axe a été divisé en sous-axes. Le premier, ça va être le gaspillage alimentaire. Donc le CIAVED accompagne les collectivités dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment en proposant aux communes de mettre en place des pesées de déchets au sein de leur restauration scolaire. Donc tout ça, on fournit le matériel nécessaire pour pouvoir faire un diagnostic du gaspillage alimentaire. Et ensuite, on intervient en classe pour sensibiliser à la fois les enfants ou même le personnel de l'école au gaspillage alimentaire. Donc ça se présente sous la forme de l'exposition que vous avez en bas à droite. C'est une exposition qui reprend tout le gaspillage alimentaire du champ à l'assiette et qui est interactive, donc qui plaît beaucoup aux enfants. Il y a des petites bulles à venir remettre sur l'exposition pour apprendre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est toute la partie gaspillage alimentaire. Je ne sais plus si dans votre dossier, vous avez coché la partie sur cet axe. On a l'axe compostage. Au niveau des, donc il y a deux types. Il y a le compostage au niveau des habitants. Donc il faut savoir que le CIAVET propose des composteurs à prix réduit pour promouvoir justement la pratique du compostage. Il suffit de remplir le bon de commande et de nous le renvoyer avec le règlement. Habituellement, on fait des grosses réunions d'information pour sensibiliser les habitants au compostage, mais là, avec la crise sanitaire, les habitants viennent directement au CIAVET récupérer leur composteur. Au niveau des collectivités, on accompagne tout type de structure à la mise en place d'un site de compostage. Donc on fournit le matériel, on fournit les composteurs et tout ça. Et on forme également les référents de site sur place pour que le site fonctionne correctement. Donc ça peut être pour une école, il y a eu pour les cimetières, ça peut être une association, un quartier, une résidence en pied d'immeuble pour un collectif d'habitants. On fournit tous les composteurs. Voilà, je vais vous laisser avec mon collègue pour la partie tri.
Alors maintenant, sur la partie tri, en fait, on va avoir une des actions qui va être très importante pour nous, c'est la vérification des bacs de collecte des différents bâtiments et des habitants de la commune. D'ailleurs, on a déjà commencé une action de ce type janvier-février, on a fait plusieurs contrôles. Et en fait, on va laisser différentes étiquettes qui vont nous permettre de juger de la qualité du tri. Donc on va avoir l'étiquette verte en premier. Donc celle-là va reprendre vraiment par rapport aux consignes de tri, ça va être un tri parfait. On va dire que l'habitant est sûr de bien trier ses déchets. Donc ce porte-manteau-là, on l'accroche sur la poignée des bacs de collecte. On va avoir ensuite une étiquette de couleur jaune qui va reprendre les erreurs de tri, mais le bac peut être collecté. C'est-à-dire que là, ça va surtout être sur les plastiques non recyclables. Ce sera précisé au dos de l'étiquette. Donc si vous les voyez après un peu plus précisément, il y a une liste et on coche les déchets qui ne conviennent pas. Et après, en dernier, on aura l'étiquette rouge. Donc ça, c'est le carton rouge. Ça s'appelle un refus de collecte. C'est là où vraiment le camion, quand les équipiers vont passer, ils ne vont pas collecter le bac parce qu'il y a trop de déchets qui ne correspondent pas à cette collecte. Et là, on est vraiment sur des choses qui n'ont rien à faire dans le bac. Donc ça peut être des déchets qui sont censés aller en déchetterie, par exemple, comme des appareils électroniques. On retrouve souvent des couches, par exemple, beaucoup de mouchoirs, des masques. Ce genre de choses est notifié aussi au dos de l'étiquette. Et ça permet à l'habitant de savoir les erreurs qu'il a fait. Toutes ces actions-là engendrent une sensibilisation dans les deux semaines qui suivent en porte-à-porte. Donc on repasse toujours aux adresses qui ont reçu un refus de collecte pour pouvoir sensibiliser les habitants. C'est très important pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils ont eu cette étiquette rouge et puis après pour forcément améliorer aussi leur geste de tri. Donc en moyenne, sur le territoire complet du CIAVED en 2020, on a ces statistiques-là. Donc on a 18% de bons trieurs. 68% de trieurs moyens avec des erreurs principalement sur le plastique et ensuite 14% de refus de collecte. Donc juste pour indication de ce qu'on a comme élément concernant la commune de Tri, on est un peu au-dessus de la moyenne, on est plus à 18-20% de refus de collecte et concernant les bons trieurs, on est à un peu moins, on est plus à 12-13% de bons trieurs. Sachant que sur l'engagement de la commune, qui est 15% de bons trieurs d'ici à la fin de l'année, il y a 2-3% à gagner et forcément faire baisser aussi les refus de collecte. Donc voilà, après c'est tout ce que je disais, hein, les raisons pour lesquelles les bacs sont refusés. On retrouve beaucoup de restes alimentaires aussi. Ça, c'est des déchets qui sont sales, qui n'ont rien à faire dans le bac de collecte sélective, donc le bac jaune ou bleu. Donc les raisons aussi, donc on ne fait pas forcément ça pour s'amuser, il y a des raisons sanitaires, hein, tout simplement quand on retrouve des masques ou des mouchoirs dans les poubelles de tri qui sont en vrac, forcément, après au centre de tri, c'est trié, il y a une grosse partie manuelle, donc ça met un peu en danger les opérateurs, tout comme les déchets qui peuvent être dangereux, type ce qu'on appelle les dasseries, on retrouve de temps en temps des seringues dans les poubelles, ça n'a rien à faire là aussi. Et puis après, ça coûte de l'argent forcément, parce que tout ce qui est trié, toute la partie qui n'est pas recyclable au centre de tri doit être redirigée vers un autre centre de traitement. Donc c'est du transport et du traitement qui coûte de l'argent. Ensuite, on peut et on va accompagner la commune dans la sensibilisation d'une manière générale. Donc on peut intervenir dans les écoles, chose qu'on a déjà commencé. Donc là, on se pose toute une matinée avec des cycles 3 principalement pour leur expliquer comment on fait le tri, l'histoire des déchets, éventuellement une activité manuelle sur le recyclage d'une brique de lait, par exemple. Tout ça est possible. Ensuite, au niveau du personnel de la commune, on propose des formations pour pouvoir bien gérer ces déchets. Et puis, on a quoi d'autre ? On a aussi, oui, les sensibilisations avec plus les associations, les maisons de quartier, s'il y en a ici, où on peut intervenir sur des quartiers complets en porte-à-porte, donner l'information aux habitants pour pouvoir améliorer leurs gestes de tri. Et après, dans les résidences où il y a moins de moyens, on va dire, pour faire le tri, on peut proposer de l'affichage, des sacs de pré-collecte, donner vraiment les moyens pour expliquer le tri. Et après, on a ce petit document, le mémo-tri, qui rappelle les consignes et qui permet aussi de le garder chez soi tout simplement pour ne pas faire d'erreur. Et après, au niveau du matériel, donc là, c'est on va dire en complément des sensibilisations. On peut laisser, par exemple, dans les écoles, le petit carton que vous voyez tout en bas, ça s'appelle un Tri-Rex. C'est pour pouvoir faire le tri dans les écoles. On peut en laisser dans chaque classe qu'on sensibilise. Après, on a de l'affichage au format A3 sur les consignes de tri. Et on a aussi, donc quand la situation le permettra, quand vous faites des événements dans la commune, des événements publics, on peut vous aider sur la gestion des déchets en prêtant des supports, comme vous voyez là, en biflux ou triflux, pour pouvoir faire le tri. Je pense avoir fait le tour. Après, oui, on a pour les collectes spécifiques, par exemple, un collecteur de piles à mettre, je ne sais pas, à la mairie ou dans un endroit, on va dire, clé. Et puis, si vraiment vous avez des soucis au niveau de la signalétique sur les poubelles, il y a aussi des autocollants, tout ça, c'est des demandes à faire auprès du CIAVET. Voilà pour la partie sur le tri. Et on peut proposer aussi des diagnostics déchets, voir un peu l'état des lieux avant de faire des actions pour pouvoir améliorer et créer des plans d'action pour améliorer d'une manière générale la qualité du tri.
Alors les deux prochains axes vont être très rapides. Au niveau de l'éco-consommation, ça va surtout se baser sur le stop pub. Au niveau du CIAVED, on peut vous mettre gratuitement à disposition des autocollants stop pub pour mettre sur la boîte aux lettres des habitants. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous en demander. Habituellement, on propose aux communes d'organiser également des ateliers du savoir-faire. On a deux thématiques, le repair café, donc la réparation de petits électroménagers, et la fabrication de produits d'entretien naturel. Là, avec la crise sanitaire, on a stoppé nos ateliers, mais on compte bien essayer de recommencer au deuxième semestre. Mais en tout cas, on peut vous proposer des prestataires pour accueillir ce type d'atelier gratuitement dans votre commune. Et ensuite, on parle aussi de critères éco-responsables. On peut vous aider dans la rédaction de vos marchés publics. Si vous souhaitez, par exemple, faire des travaux avec des produits un peu plus respectueux de l'environnement, écolabellisés et tout ça. Et le dernier axe, c'est la santé environnementale. Donc ça, on vous avoue que c'est une thématique un peu inconnue à l'heure actuelle dans notre service. Ça a été mis en place par notre responsable qui va bientôt nous quitter. Et du coup, on n'est pas très formé à cette thématique. Mais on compte passer par un prestataire. Donc on est en recherche de prestataires pour vous accompagner dans la mise en place de produits d'entretien naturel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. Donc on va reprendre à peu près la même méthodologie. Mais en tout cas, on vous propose des mesures de qualité d'air et de surface avec vos produits actuels. On vous fournit un kit de démarrage avec des produits d'entretien naturel, que ce soit le vinaigre blanc, peut-être le bicarbonate de soude et tout ça. Et après, on remesure, donc on va refaire des mesures de qualité d'air et de surface pour vérifier l'efficacité des produits d'entretien naturel. Donc ça passe principalement par ça et l'information sur les perturbateurs endocriniens, la toxicité des déchets, tout ça. Donc voici ce qu'on peut vous proposer au niveau du label. Il faut savoir que la démarche vient de la commune, donc il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter pour quoi que ce soit. On va vous mettre à disposition tout type de communication, que ce soit des articles, peut-être des affiches, la réglementation, tout ça pour que vous puissiez communiquer dans vos bulletins municipaux. On va créer aussi quelques webinaires sur des thématiques spécifiques, mais on vous en dira plus tout au long du défi, du label. Et il va y avoir une newsletter qui paraîtra tous les mois pour pouvoir vous mettre en avant. Donc n'hésitez pas si vous avez une action un peu innovante dans la commune en termes de réduction ou de gestion de déchets, à nous envoyer des photos, des retours d'expérience pour que vous puissiez paraître dans la newsletter. Voilà. On a fait une petite pochette avec toute notre documentation et nos cartes de visite. Donc n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le label en général.
Alors moi j'en ai trois. Donc les références, c'est vous ? Les deux personnes ou il y a d'autres références, c'est dans la pochette peut-être.
Dans la pochette, oui. On c'est sera principalement référent, mais en termes de biodéchets, tout ce qui est compostage et tout ça, c'est Olivier Boucher qui gère le compostage, donc ce sera lui qu'il faudra contacter. Mais vous aurez bientôt un récapitulatif des contacts.
Après, vous parliez que vous pouviez intervenir sur des diverses manifestations. On a le Clip Up Day, qui est une journée forte au mois de septembre. Mmh. On avait fait la demande cette année, qui était un peu particulière, bien sûr. Mais est-ce que vous adhérez ou est-ce qu'il faut prendre rendez-vous à l'avance pour avoir la possibilité de vous avoir à nos côtés?
Alors ça, il faut nous envoyer un...
pas mal de demandes.
Oui, il faut nous envoyer un mail. vous nous envoyez un mail précisant la manifestation, ce que vous désirez. On a beaucoup d'expositions aussi, hein, que ce soit sur le gaspillage, sur le compostage.
Ouais.
On a une grande exposition sur la santé environnementale aussi en forme de maison. Donc, vous nous envoyez un mail. Notre direction prend la décision ou pas, si on peut vous accompagner, et on sera présent sans souci. D'accord.
Et j'ai reçu récemment par mail une société qui démarchait pour avoir des, enfin, je vais appeler ça des poubelles contenants pour les masques, pour justement le recyclage ou le traitement des masques. Vous n'avez pas ça ?
Non.
Vous gérez pas ça ? Parce que les masques dans les poubelles, où est-ce qu'on la met aujourd'hui ? Dans quelle poubelle ?
Il faut le mettre dans un sac bien fermé et dans la poubelle d'ordures ménagères, la poubelle noire.
Et dans un sac bien fermé, d'accord.
Voilà, tout à fait. En ce qui concerne le recyclage des masques, il est possible. On en entend parler à la télé, mais c'est une collecte spécifique. Ce n'est pas parce qu'on le met dans la poubelle jaune ou bleue qu'il sera recyclé. Au contraire, nous, ça nous pose problème. Les entreprises qui proposent ça mettent généralement un contenant, une poubelle spéciale ou c'est un ça, carton ouais. pour collecter. Et après, il les récupère, il les désinfecte par vapeur, et au final, c'est du plastique, ça. Donc, ça peut redevenir du tissu ou même être intégré dans des isolations de maisons, par exemple.
Ok, merci.
Plus d'autres questions ?
T'as le micro devant toi, Nathalie. Je ne sais pas si allumé.
Vous m'entendez, non ? Bonsoir. Quelle est la commune la plus dynamique actuellement sur le territoire de la CAPH en matière de lutte contre les déchets ?
Il y a des communes qui s'engagent. Après, dire laquelle est la plus dynamique, on ne saurait pas.
Ou bien quelques-unes.
Il y a Rennes qui propose beaucoup de choses, même s'il n'y a pas toujours les résultats qui sont là. Ils proposent, ils font quand même, ils sont engagés, on va dire.
Ouais.
C'est difficile à dire. Après, il y a toutes les communes du nord, on va dire, du côté de Saint-Amand, qui sont assez autonomes là-dessus, qui sont exemplaires, on va dire. On n'a pas trop besoin d'intervenir là-dessus, en tout cas sur le tri. Je sais pas vous, votre parti, mais généralement, c'est plus des gens qui sont demandeurs, qui vont demander des composteurs, bien faire le tri, nous demander de la documentation. Mais après, je sais pas si on a une commune plus dynamique que l'autre, pour l'instant.
Et sinon, est-ce que vous pouvez donner des exemples de dispositifs innovants ? Tout à l'heure, vous parliez de ça, de mettre en place des choses innovantes en matière de lutte contre les déchets. Est-ce que vous avez des exemples ?
Ça peut être, par exemple, des collectes spécifiques. Donc, par exemple, au niveau des masques, ça pourrait être une belle idée, notamment qu'on voit beaucoup de masques n'importe où, par terre et dans la poubelle de tri. Et ça, je vous avoue que ce serait totalement innovant parce qu'on ne l'a pas. Après, des collectes spécifiques, il en existe beaucoup. Il y a les cartouches d'encre, il y a les crayons. Il faut vraiment. Mais ça, c'est pareil. Dans les documents qu'on va vous fournir par la suite, il y aura des exemples qui peuvent vous inspirer au niveau des actions à mettre en place.
Ok, merci.
Pour participer aux réunions du CIAVET sur certaines commissions, je me suis aperçu qu'ils avaient des carafes, si on peut appeler ça des carafes, au lieu des bouteilles plastiques. Et on peut en avoir, en acheter chez vous ? Comment ça fonctionne ? Non ? Ce n'est pas votre domaine de compétence ?
On a plus de stock, mais ça peut être quelque chose qu'on peut relancer. Nous,
avec un achat groupé pour les avoir, oui. Parce que pour moi, ça me dérange un peu. Un peu beaucoup. Oui, la situation, je comprends.
Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait lancer un achat groupé ou même fournir des carafes.
Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se remettre en place, d'accord. Okay. Et dans le questionnaire, pour précision, dans le questionnaire qu'on avait reçu, on n'a pas été ambitieux. On n'a pas voulu surévaluer nos capacités de faire. On a répondu à des questions où on fait très bien déjà aujourd'hui, des questions où on doit se remettre un peu en question justement pour évoluer, avancer, mais on n'a pas voulu non plus taper une part haute, qu'on voit pas. L'objectif, c'est de petit à petit d'arriver à un résultat, mais pas se surestimer. Puis
oui, parce
qu'on ait la mauvaise note à la fin.
Oui. Oui. Enfin, j'ai vu que vous parliez également d'objectifs à atteindre. Donc, ces objectifs sont définis en partenariat avec la commune sur les cartons rouges, jaunes et verts.
Et ça, c'est des choses qui ont été choisies par la commune. Donc, c'était un questionnaire qui a déjà été renvoyé auprès D'accord. du CIAVED. Après, je crois, peut-être sur votre sur le dossier de la commune ici, il y avait peut-être eu une incompréhension parce que je crois que vous avez coché les trois cases. Tu l'as ? C'est pas vous, c'est une autre commune, c'est pas grave, mais c'est pour être sûr.
Redites les questions pour voir.
Donc c'est l'investissement des habitants. Oui. À ce niveau-là, ouais, c'est bien ce qui me semblait. En fait, vous avez coché 15%, 30% et 50%, alors qu'il n'y en a qu'une à cocher, normalement, c'est l'objectif à atteindre. Et moi, je vous conseille 15%. Ce sera déjà pas mal au vu de l'état actuel du tri sur la commune. 15%, c'est déjà un bel objectif. Et nous, après, on va faire beaucoup de travail sur le terrain, il n'y a pas de souci.
Quand je vois la démarche pédagogique, je pense que les gens sont quand même sensibilisés. Donc, pour arriver au rouge, il faut vraiment être de mauvaise volonté, en mon sens.
Oui. Avec ce qu'on retrouve clairement, je vais vous dire, ici, sur la commune, on a beaucoup de déchets qui sont censés aller en déchetterie, dans les bacs. Donc, on va retrouver des abattants de WC, des produits électroniques... parfois des gros morceaux de bois, des déchets de chantier, des choses qui vraiment, je pense que tout le monde le sait que ça ne va pas dans cette poubelle-là. Et beaucoup de vêtements aussi.
Oui, donc je termine par ma question justement sur ces objectifs. Lorsque ceux-ci ne sont pas atteints, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du partenariat avec la commune ?
Vous n'avez pas la tutelle qui est attribuée, le nom de tutelle attribuée ?
Tout simplement.
Il n'y a pas de sanction ni de punition, hein. C'est vraiment pour pouvoir se situer par rapport à un taux qu'on a choisi au début de l'action.
La sanction que les administrés ou la commune peut avoir, c'est le fait, comme vous disiez, des déchets qui ne vont plus en recyclage ou traitement simple, qui vont, et là, ça alourdit la facture au niveau des services du CIAVED, du traitement.
Voilà, tout à fait.
Mais en fait, vous n'avez pas beaucoup d'objectifs précis dans les actions que vous avez choisies, à part peut-être sur le pourcentage d'étiquettes vertes pour évaluer la qualité du tri, ou le fait d'augmenter le nombre de foyers équipés en compostage. C'est plutôt des actions assez basiques, comme par exemple, j'accueille un atelier du savoir-faire, le fait de faire la démarche pour accueillir un atelier au sein de la commune, vous allez remporter des lucioles. Le fait d'équiper peut-être une école avec un composteur, vous allez remporter aussi des lucioles. Et c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas un pourcentage ou un pourcentage d'élèves sensibilisés ou de personnel sensibilisé. Il n'y a pas tellement d'objectifs quantitatifs.
Je ne sais pas si vous faites un inventaire ou si vous avez un inventaire, parce que des bacs, il y en a dans les écoles déjà. Enfin, je veux dire, sans avoir cette carotte au bout du bâton, on avait déjà rentré dans un processus de...
Oui, on a un état des lieux de toutes les actions. Après, on ne connaît peut-être pas tout. On connaît les actions qui ont été mises en place avec le CIAVED. On ne connaît peut-être pas ce qui a été fait individuellement par
une école ou...
Ce qui est important, c'est qu'à la fin, vous avez aussi un dossier à rendre avec des justificatifs, par exemple la photo du composteur installé à l'école, la photo peut-être d'un point de collecte spécifique si vous mettez un contenant pour les piles, par exemple au sein de la mairie. Ça peut être une copie de votre marché public qui stipule que vous avez dépeinturé, collabellisé, vous êtes respectueux de l'environnement. C'est des petits justificatifs comme ça qui vont vous permettre de justifier le nombre de lucioles derrière.
Je voulais juste demander si les bonjour Madame Musi, si les lucioles sont affichées à l'entrée de la ville, c'est ça l'objectif, un peu comme les arrobases ou les fleurs.
Alors peut-être pas à l'entrée de la ville parce qu'on a quand même 25 communes cette année et du coup si on fait un panneau différent à chaque entrée de ville ou de village, on ne va pas s'en sortir. Mais dans toute votre communication, vous aurez un logo qui stipule que vous êtes
la vitrine de la mairie ou dans toutes les salles qui appartiennent à la mairie pour montrer que vous êtes commune zéro déchet.
Et donc il y a un objectif de moyens plus qu'un objectif de résultat. Et pour augmenter le résultat des opérations, il vaut mieux forcément passer par les associatifs, les collectifs, des travaux pédagogiques avec les enfants. Il y a tous des supports proposés. Ou c'est oui, c'est ça.
Oui. Et vous l'aurez prochainement.
Ok, parfait, merci.
J'ai encore une question sur la collecte des déchets verts. Vous allez donc ramasser les déchets verts. Et est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir les copeaux? Vous allez les réduire en copeaux?
Oui, mais ça je pense, on n'a pas trop de précisions là-dessus, mais ça va être fait d'une manière, on va dire, industrielle, et ça va être des entreprises derrière nos prestataires qui vont récupérer la matière. Et ça va être plus à grande échelle, destiné à des industriels plutôt qu'aux particuliers.
Ben on le regrette, parce que nous, on avait justement une collecte de déchets verts localement. On aurait pu mettre en place des broyeurs et permettre aux personnes de récupérer les copeaux ou pour pratiquer la permaculture ou couvrir leur paillis, ouais, voilà, leur parc. Il y a des broyeurs à la ville. Kamel, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait des broyeurs. Ouais.
Après, bien sûr, les gens peuvent faire le choix plutôt que de mettre les déchets à leur porte, peuvent faire le choix de l'apporter en broyage ou en déchetterie.
Oui, mais on les aurait incités à agir comme ça si on ne les avait pas taxés, comme on le fait. Malheureusement, nous pratiquons comme ça aujourd'hui. Il y en a certains qui vont abandonner ces pratiques, malheureusement, à cause de la taxe.
D'accord.
Et peut-être une question juste à vous, enfin, monsieur le maire, puisque j'ai cru comprendre que vous auriez besoin d'un interlocuteur précis sur la commune, quelqu'un qui serait référent. Et cet interlocuteur est un élu ou un technicien de la ville?
C'est Thibault.
C'est Thibault, ok. Et une dernière question pour ma part. Sur le premier diapo que vous avez montré, j'ai vu que la quantité de déchets par habitant était quand même énorme. Il n'y a pas une erreur sur votre diapo?
Non.
Non? Vous êtes sûr? Vous pouvez le remettre?
Oui,
tu as la 680 kg pour 560.
Mais Alain, tu as sûrement raison, parce que, comme je disais, pour participer aux commissions du SAVET, certaines commissions, déchetterie, tout ça, j'étais affolé du traitement des produits qu'on pouvait avoir sur notre territoire. Affolant.
Et alors, vous regarderez bien, mais ce chiffre-là de 690 kilos, quand on regarde le dernier horizon qui est distribué par la CAPH, le 680 devient 460. C'est une erreur d'impression, mais en fait, non, c'est pas une erreur d'impression.
Il faut voir comment ils ont présenté les choses, parce que des fois, je ne sais pas pourquoi, on éjecte les déchets verts, des fois, on éjecte les... Il faut voir comment ils ont présenté les choses, mais nous, c'est vraiment tout confondu. Il y a vraiment tous les déchets qu'on traite sur un an. Après, il me semble, lui, avoir vu ça, et je crois qu'ils ont exclu une partie des déchets.
Ben, j'aurais posé la question, ils m'ont dit que non. Non, mais bon, ils sont trompés, c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça. 203 000, le dernier chiffre, 203 000 tonnes, 527.
Non, c'est
celui-là. Mais pas par habitant par an, non? Il y a une erreur, oui. Donc, comprenez par les habitants d'une manière générale, je pense plutôt. Ouais. Parce que ça fait beaucoup, 203 000 tonnes par habitant, c'est un peu trop énorme.
Trois fois rien.
Veuillez nous excuser.
Non, c'est 220 000 tonnes traitées par le CIAVED, donc qui est généré par les habitants, c'est 200 000 tonnes.
Ouais, ouais, mais en gros.
Et Et par exemple, est-ce que s'il y avait met à disposition, enfin, je ne sais pas, des protections périodiques biodégradables ou bien des couches pour bébés biodégradables ou à essayer, des kits d'essai, quoi. Et on mettra sûrement ça en place avec un RAM ou une chose, quelque chose dans le genre.
Est-ce qu'il y a encore des questions?
Plus de questions, bonne question. Merci pour votre intervention.
On vous remercie aussi d'avoir été attentif. Et puis,
c'est tout à fait normal. Et puis on est amené à se revoir, si ce n'est pas vous, tout vos collègues, fait. Mais on va travailler ensemble.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Très belle présentation, merci beaucoup. Bon, on va pouvoir continuer notre séance de conseil. Donc, je vais laisser la parole à M. Prouveur pour les délégations du conseil municipal au maire. Vous êtes prêt, M. Prouveur? Vous voulez un micro?
Alors, décision portant modification d'un marché, le 2 novembre 2020, relatif à l'acquisition de matériel informatique, d'intégrer au bordereau des prix unitaires du marché passé en procédure adaptée pour l'acquisition de matériel informatique à forme 2020, le produit suivant. La station d'accueil HP-USB-C à Universal Dock G2, au tarif unitaire de 223 hors taxes, soit 267,60 € TTC. Le 14 décembre 2020, relatif à la fourniture des jouets de Noël aux enfants tritois, afin de remplacer le jeu d'équilibre bois 48 pièces par le jeu Jenka, au tarif unitaire de 6,44 € TTC pour le Noël des enfants tritois. 28 décembre 2020, relatif à l'exploitation et la maintenance du centre aquatique de Trissalégé afin de modifier la date réelle de redémarrage des prestations au 5 octobre 2020. 12 janvier 2021, relatif à l'achat de produits d'entretien pour les bâtiments communaux. Lot 4, produits d'entretien pour la piscine et les salles de sport, d'ajouter au bordereau de prix les articles suivants. Lotion nettoyante 3 en 1, main, corps, cheveux. Bidon de 5 litres, 8,10 € hors taxe, sol anti-mousse, bidon de 1 litre, 2,90 € hors taxe. La société Orapi Hygiène Nord, Zedi Duelu, à Lezenne. 12 janvier 2021, relatif à l'achat de produits d'entretien pour les bâtiments communaux, lot 2, produits d'entretien général, d'ajouter au bordereau de prix les articles suivants, Mediprop Surf PAE, détergent désinfectant, conditionnement en 6 fois 750 ml au prix de 23,58 €. Fagaspray nettoyant désinfectant en 6 fois 750 ml au prix de 23,58 €. Azeptiway nettoyant désinfectant conditionnement 6 fois 1 litre, 33,23 €. À la société Paredes à Bourdieu. 18 janvier 2021. Relatif à la fourniture de vêtements de travail pour le personnel des services municipaux. Lot 3, chaussures pour le personnel cuisine et restaurant scolaire et le personnel de service des bâtiments communaux, d'ajouter au bordereau de prix l'article suivant. W310S2 Safety chaussures basse agro blanc au prix unitaire de 43,20 € hors taxe, soit 51,84 € TTC à la société Protecnor à Fréthun. 19 février 2021, relatif à l'achat de produits d'entretien pour les bâtiments communaux. Lot 3, produits d'entretien pour la cuisine centrale et restaurant scolaire, d'ajouter au bordereau de prix les articles suivants. Désinfectant sans rinçage, carton de 6 flacons de 750 ml au prix de 27 € hors taxe. Tablette pour le lave-vaisselle, seau de 2,4 kg au prix de 18,92 € hors taxe. Savon liquide, carton de 6 unités de 1 litre au prix de 46,21 € hors taxe. Désinfection des fruits et légumes, carton de 2 bidons au prix de 33 € hors taxe. Lavage hygiénique, carton de 6 unités au prix de 90,78 € hors taxe. À la société Orapi Hygiène Nord à Lausanne. Attribution d'un accord cadre, 14 janvier 2021. D'attribuer l'accord cadre lancé en procédure adaptée pour les fournitures scolaires, matériel pédagogique et de loisirs éducatifs, pour les écoles maternelles, primaires et les centres de loisirs de la ville de Trézalégé, d'après les bordereaux de prix des titulaires suivants. Lot 1, pour les enfants, section maternelle, attribué à la société de Pienne, à Saint-Amand-les-Eaux. Lot 2, pour les enfants, section primaire, attribué à la société Lacoste Dactylo Bureau Office à Le Thor. 4 février 2021, d'attribuer l'accord cadre lancé en procédure adaptée pour la location de matériel scénique pour la ville de Trézalégé de la ville de Trézalégé d'après les montants suivants. Lot 1 pour l'éclairage et le son, attribué à la société Project à Fresnes-lès-Montauban pour un montant maximum de 35 000 € hors taxe. Lot 2 pour la vidéo, attribué à la société Prodex à Fresnes-lès-Montauban pour un montant maximum de 4 000 € hors taxe. Décision portant modification d'un accord cadre. 2 février 2021, pour les fournitures scolaires, matériel pédagogique et de loisirs éducatifs, pour les écoles maternelles, primaires et les centres de loisirs de la ville de Trézalégé, de prévoir les montants maximum suivants pour les marchés cités en projet. Lot 1 pour les enfants en section maternelle, attribué à la société de Bienne à Saint-Anne-les-Eaux, pour un montant maximum engageant le titulaire de 20 000 € hors taxe. Lot 2 pour les enfants en section primaire, d'attribuer à la société Lacoste Bureau Office à Le Thor pour un montant maximum engageant le titulaire de 40 000 € hors taxe. Décision portant attribution d'un contrat. 29 décembre 2020, le contrat de maintenance d'entretien de l'ascenseur de l'école primaire Jean Massé, rue du 8 mai 45, avec la société Schneider, dont le siège social est situé à Vélizy, Villacamblay, est approuvé pour un montant de 1 450 € hors taxe annuelle pour un an à compter du 1er janvier 2021, expressément reconductible d'année en année avec un maximum de 2 ans, soit 3 ans maximum. 14 janvier 2021, le contrat de fibre Max VPN pour la vidéoprotection des sites suivants, mairie, LCR, Salle, Paul-Éluard, complexe Eugène Philippe et école Gustave Eiffel, est passé avec la société Orange Business Service, 6 à Paris. La tarification s'élève à 66,70 € hors taxe par mois, par site, et pour une durée de 36 mois, pour un montant total de 9 604,80 € hors taxe. Décision portant attribution d'un marché. 29 janvier 2021, d'attribuer un marché public lancé en procédure adaptée pour les cadeaux de la fête des mères 2021 pour la ville de Trézalégé, le sac de voyage trolley à la société Benji à Sars-les-Rosières, pour un prix unitaire de 23,21 € hors taxe, soit 27,85 € TTC, pour une quantité qui ne saurait excéder 1950 articles. 19 février 2021, d'attribuer le marché public lancé en procédure adaptée pour le voyage des aînés de 2021, d'après les montants suivants. Attribuer la société Place Voyage à Valenciennes pour un montant forfaitaire de 50 € TTC par personne, supplément fromage de 90, fuite bière supplémentaire 75 €. Décision portant contrat de location, annule et remplace. 18 février 2021, le contrat de location et d'utilisation d'une machine à franchir avec la société Quadrant à Ruelle-Malmaison est approuvé pour un montant hors taxe annuel de 6 895 €. Plus contrat J plus 1, service d'externalisation d'envoi de la réception de documents pour un montant de 179 € hors taxe payable une fois la première année, plus frais de gestion, 28 euros par an, en sus du tarif en vigueur, plus frais de gestion de 18,50 euros. Ce contrat est souscrit pour une durée de 3 ans, à côté de sa notification. Enfin, arrêté municipal du 28 décembre 2020, relatif à des virements de crédit au vu des crédits disponibles en section d'investissement, chapitre 20, dépenses imprévues, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement, dépenses article 10, 226, taxe d'aménagement, il est décidé de réaliser le virement de crédit suivant. Article 020, dépenses imprévues, dépenses 298, chapitre 020, article 10, 226, taxe d'aménagement, dépenses 298, chapitre 10. Toto, zéro.
Voilà. Merci, monsieur Prouveur. C'est qu'on a bien travaillé, quand même, en quelques mois. Alors, l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal qui date du 16 décembre. Donc, tout le monde a reçu les dossiers en sa possession. Y a-t-il des questions sur ce compte-rendu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, nous sommes destinataires de questions écrites en SAMP-TSL qui seront donc débattues en fin de séance, hein, hormis les questions complémentaires arrivées hors délai qui seront débattues lors du prochain conseil municipal. Bah oui. Donc, on les traitera la fois prochaine. On va traiter une partie de celles que j'ai reçues bien avant, et celles-ci, on pourra les traiter la fois prochaine. Donc, il y a le règlement intérieur. Moi, je me tiens au règlement intérieur. Alors, par contre, une version amendée de la première motion vous a été donc mise sur la table. Vous avez ici la motion sous les yeux qu'on vient de vous distribuer. Je vais laisser donc la parole à Madame l'adjointe sur le sujet. Oui, oui, elle est distribuée. Micro, s'il vous plaît. Maestro, micro. Alors, la motion au niveau des étudiants.
Oui, c'est la motion qui concerne la crise sanitaire qui fragilise les étudiants. Donc, on vous propose une version amendée de la première motion. La proposition faite de créer un RSA en destination des étudiants est une idée bien entendu intéressante.
À votre demande.
Sauf que le RSA est de la compétence du département et bien entendu le nombre de bénéficiaires ne fait que croître du fait de la situation sanitaire, mais pas que. Et du coup, il faudrait que le département passe par le Parlement pour pouvoir mettre en place ce RSA. Et il nous est apparu normal que ce soit le gouvernement qui prenne ses responsabilités et non pas le département. Donc, nous avons, je ne vais pas relire toute la motion, mais uniquement la fin. Les jeunes sont la richesse de notre pays. Au regard de cette situation, le conseil municipal de Trie-Saint-Léger appelle le gouvernement à agir urgemment en créant un minimal social inconditionnel à destination des 18-25 ans qui pourrait être mis en place directement dans tous les départements.
Je ne vais pas dire servir même, mais le RSA, c'est vraiment une enveloppe département. Et là, il faut vraiment que ce soit l'État qui prenne cette enveloppe, cette charge financière, pour ne pas non plus impacter les personnes demandeurs du RSA sur le territoire, qui sont déjà très importants et qui vont redevenir encore plus importants. Je ne sais pas si vous avez souvenir, il y a quelques années, le département avait du mal à payer cette partie RSA. Et on ne peut pas dire au département de prendre en charge ce qui se passe sur la crise sanitaire. Et pour nous, c'est, et pour vous, je suppose aussi, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et c'est à eux de donner l'enveloppe pour le faire.
Mais bien entendu, mais l'État peut toujours aider le département, bah, à abonder forcément le fonds destiné au département pour verser cette allocation. Et donc nous, on vous avait proposé
Nathalie,
une modification, oui, mais je voulais préciser qu'il n'y a pas que les étudiants qui souffrent actuellement de la crise, il y a aussi les jeunes actifs de 18 à 25 ans. Et il nous semblait eh bien indispensable d'en parler dans la motion. De parler aussi des jeunes actifs, parce que les étudiants, bien sûr, ils sont impactés, mais aussi ceux qui sont diplômés ou pas encore ou non diplômés et qui sont à la recherche d'emploi et qui sont en difficulté aujourd'hui à cause de la crise économique qui est la conséquence de la crise sanitaire.
Et surtout apporter une logique, sur la fin, puisque l'idée du RSA soutenue par le gouvernement est quelque chose que vous souhaitez porter. Les étudiants ne sont pas les premiers ayants droit du RSA. C'est bien ceux qui sont sortis du circuit scolaire, qui ont moins de 25 ans et qui se retrouvent sans emploi. C'est une question de cohérence du texte.
Oui, en fait, là, si vous ne parlez pas des jeunes actifs, ben voilà, c'est pas, ça devient illogique là de parler finalement des 18-25 ans à la fin du texte. Il faut parler des jeunes actifs dès le départ. Et pourquoi pas parler des jeunes actifs ? Ça ne vous semble pas logique de les inclure, ces jeunes qui sont diplômés ou pas diplômés et qui sont à la recherche d'un emploi et qui ne peuvent pas bénéficier du RSA parce que, justement, ça commence à 25 ans. On ne peut en bénéficier qu'à partir de 25 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai souci. C'est d'ailleurs une préconisation du PCF hein, et aussi de LV. Pour une fois, ils ont été bien inspirés. Et c'est aussi une de leurs préconisations. Alors, n'est-ce pas, Thibault ? C'est bien une préconisation du PCF. Hein ?
Alors, quand tu parles des jeunes actifs, il n'y a pas que les jeunes actifs, mais il y a aussi la prime d'activité qui compense par rapport aux jeunes actifs qui ont des revenus en baisse. Votre proposition, on va l'accepter. Je vais l'accepter. Peut-être que le vote va faire qu'on l'accepte, mais on peut rajouter cette partie que vous énumérez. Il n'y a aucun souci et ça va dans le bon sens de ce que M. Dulieu et Mme Isabelle Chat, au niveau de notre département, veulent aussi appuyer, mettre en place. Donc c'est une action politique
pour
laquelle enfin on se rejoint. Mmh.
Donc dès le départ, on dira que la crise sanitaire a fragilisé les étudiants et les jeunes actifs.
Oui,
on est
voilà,
d'accord.
Oui,
ouais.
C'est
on
ça.
Est d'accord.
C'est ça.
Et du coup, il y avait, nous, on vous avait proposé un paragraphe en plus de celui sur les étudiants. On avait proposé un paragraphe en parlant de la crise économique qui s'annonce avec la contraction de l'emploi, de l'intérim, des petits boulots, qui va accroître en fait les situations de pauvreté chez cette tranche d'âge-là.
Donc on va reprendre cette remarque qu'on a dit
oui,
tout au début.
J'ai le texte si vous voulez.
On va la rajouter sur notre motion. Cette partie, tu as pris note, je suppose.
Oui.
Voilà.
Mais je peux vous laisser le texte, il n'y a pas de souci. Bon, vous l'avez envoyé de toute façon.
Tu as noté, Malika.
Oui, j'ai noté.
C'est bon ?
Mais le texte, on l'a envoyé. Hein.
Oui,
non,
oui,
non. Mais... Tu as noté, Malika ? C'est bon ?
Oui, j'ai noté.
Tu peux relire, peut-être ? Ce sera au moins clair pour tout le monde.
Ouais.
Si tu l'as noté.
De noter, j'ai sous les yeux ce que ça a été envoyé. Donc, c'est bien le paragraphe. Pour les jeunes actifs, la crise qui s'annonce avec la contraction de l'emploi, de l'intérim, des petits boulots, va accroître encore des situations de pauvreté en creusant nécessairement les inégalités. De nombreux jeunes, diplômés ou pas, vont se retrouver sans ressources. C'est de ce paragraphe-là que tu parles. Oui, OK.
À la virgule près, c'est ça.
Oui.
Alors, on se met d'accord pour cela. Donc, c'est ce texte-là qui va être voté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Et puis, surtout, merci pour... On parle des étudiants aujourd'hui, mais on pourrait parler bien de situations catastrophiques sur pas mal de domaines, ne serait-ce qu'on pense toujours aussi à la culture, les restaurants, enfin, le sport, tous ces domaines-là. Merci à tout le monde. La deuxième motion, donc là, bah, comme vous le savez, hein, fermeture d'une classe à l'école maternelle Jean Massé. On vous propose aussi une motion que Madame Lamjointe va pouvoir nous expliquer ou en parler si tu le souhaites.
Bah, pour résumer en deux mots, mais tout le monde est au courant, mais on va quand même redonner l'information pour que ce soit clair. On nous annonce pour la rentrée prochaine la fermeture d'une classe à l'école maternelle Jean Massé, donc aussi bah, d'une suppression de postes, bien sûr, puisque ça va de pair. Et des actions sont engagées pour lutter contre cette fermeture. Certains élus, je les remercie, et des administrés se sont rendus à l'école lundi matin. Dès l'ouverture, même avant l'ouverture, des pétitions circulent et se remplissent. Les parents d'élèves sont reçus en mairie et nous travaillons de concert pour la suite de cette lutte. Donc il ne faut pas baisser les bras, même si à l'inspection académique, pour eux, bien entendu, c'est acté, mais il faut que l'on dise que l'on n'est pas d'accord et que l'on avance nos arguments pour tenter de maintenir cette classe. Hein, c'est très important. Oui, Nathalie.
Oui, alors le directeur de l'académie table sur 6 élèves de 2 ans l'année prochaine. Oui, alors
c'est
que...
dans la presse.
Oui, oui. C'est de là que je tire mes chiffres, alors que, monsieur le maire, vous avancez un chiffre de 20 enfants. Alors, ce chiffre s'appuie certainement sur des données que vous avez recueillies.
Voilà.
Alors, en fait...
Qu'on est en train de recueillir et qu'on continue à recueillir.
Alors, voilà. Alors si tu veux quelques éléments de réponse, nous sommes en train de procéder aux inscriptions mairie.
Oui.
Donc, c'est en cours. Et aussi, j'ai déjà signé, avec l'accord de monsieur le maire, des dérogations. Si on ne compte que les dérogations pour Jean Massé, on est déjà à 6.
Ouais.
Alors, je ne sais pas où il va chercher ces chiffres, mais c'est normal.
Mais il se fie aux chiffres de 2019 et ceux de 2020. Et il fait une moyenne, ils font toujours ça.
Oui, ils font toujours ça, parce que les effectifs...
Mais nous, c'est des chiffres terrain, c'est des chiffres où on a les infos, c'est ça qui est important.
C'est ce qu'il faut, il faut des attestations.
Voilà, c'est ça.
On ajoutera aux pétitions. Là, aujourd'hui, les parents d'élèves ont envoyé une demande d'audience à l'inspection académique. C'est envoyé. Donc, on va attendre la réponse. Et voilà, s'ils peuvent aller à l'inspection, on verra.
Oui, on verra.
Ils prendront les pétitions et les attestations. Sinon, bon, on fera ce qu'on a dit. Hein. Il faudra bien bloquer l'école.
Ouais.
Et par rapport à ça, on s'était mis d'accord, Nathalie, pour qu'on puisse ensemble, sur ce sujet, pouvoir faire la démarche.
Tu as remarqué, on était ensemble.
Oui, mais tu dis que vous avez déjà envoyé parce que nous...
C'est
on
pas
a...
moi.
Non, nous, ce sont les parents d'élèves c'est qui doivent faire, d'élèves. Faire cette démarche-là.
C'est pas envoyé.
Les parents d'élèves ont envoyé une demande d'audience.
Oui.
C'est normal.
On avait aussi parlé, oui, bien sûr.
Alors, toi, tu devrais envoyer.
Moi, je les reçois. Enfin,
non, non, ça, bien sûr. Mais toi, en tant que maire, il faudrait que tu interpelles l'inspection.
C'est ce qu'on fait, Nathalie. C'est ce que j'entends te dire.
Très bien.
Non, alors, pétition, vous avez
dit. Tu m'interroges par rapport à la démarche des parents d'élèves, et tu me dis, on avait dit qu'on agissait ensemble, bien sûr,
voilà.
Mais eux, il faut les intégrer complètement à la démarche.
Tu parlais de pétition, ils ont envoyé les pétitions
ah
vous
non,
avez...
non,
d'accord, ok,
non,
d'accord.
Non,
c'est parce que je rebondis là-dessus,
pas.
C'est parce que vous avez pu voir, il y a quelques heures, là, on a fait donc une pétition en ligne avec un message vidéo pour expliquer la situation, parce que des fois, des textes ou des photos, c'est pas assez parlant. et Malika, que je remercie, et Claire Dumès, qui est excusée, mais que je remercie aussi, ont expliqué quand même la situation pour que les gens soient sensibilisés. Et il faut qu'on recueille le maximum de signatures pour avoir du poids. Et après, moi, je dirais, on est des gens de terrain, on n'invente pas les chiffres, on est même en deçà de ce qu'on pourrait peut-être découvrir. Mais il faut vraiment que les administrés, que ce soit le secteur géographique de tri, il faut que les gens se mobilisent parce que ça devient quand même dramatique. Le fait qu'on parle de situation Covid, le fait qu'on parle de distanciation, et que pour une fois qu'on pourrait tourner avec des classes de moins d'élèves, non, là-haut, ils sont sur la calculette et eux, ils ne voient pas ça de la même façon. Mais je sais bien, Nathalie, mais si on ne fait rien, on va se faire bouffer. Parce que la conséquence, après, c'est les écoles primaires.
Régulièrement, Malika et moi, on le sait bien, on sait comment.
Et on a toujours défendu cette cause. Aujourd'hui, il faut que l'État, le gouvernement, comprenne que ce n'est pas une question de pognon. Parce que j'en discutais quand cet après-midi. J'imagine, au niveau des enseignants, ils ont un enseignant, une rémunération à faire. Mais à la limite, c'est ce qu'ils font, l'État. C'est cette somme-là qui paye. Parce que nous, la ville de Tri, pour exemple, on fait beaucoup dans les écoles. On s'investit, on donne beaucoup dans les écoles. On participe à différentes échelles, à différents niveaux. Donc nous, on fait le maximum, l'argent du contribuable, qui est le vote, qui est notre, à tous. On met le paquet et l'État, non, dès qu'il peut gratter 4 sous, il va gratter 4 sous. Donc ça, c'est inadmissible.
Mmh. Entièrement d'accord. Et sinon, il faut se féliciter aussi du fait que les parents sont sur le terrain. Il faut l'encourager parce que ça aussi, ils sont des partenaires importants dans l'éducation des enfants. Et là, ils sont partis avec leur pétition au porte-à-porte dans le quartier autour de l'école.
Je sais.
Voilà. Donc, c'est super, ça.
C'est très bien.
Ouais.
Cette motion, on la met au voix. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le dossier secrétaire général, donc syndicat des eaux du Valenciennois, rapport d'activité du service de l'eau pour l'année 2019. Je vais laisser Madame Chopin-Christelle, qui est d'ailleurs VP au niveau du syndicat des eaux. Micro? Maestro, micro? C'est mieux parce que la bande son, c'est plus difficile.
Alors, pour information, le comité syndical du SEV a approuvé, lors de son comité en date du 7 décembre 2020, les rapports annuels périmètre ex-SIRVAEP, périmètre ex-SIDERC sur l'eau potable, le prix et la qualité du service public présenté par Suez Eau France pour l'année 2019. Les 25 communes membres doivent donner leur avis sur les documents que le SEV leur a transmis. Alors voici ce qu'il faut retenir. L'eau distribuée provient de 8 usines de production, 7 sur le territoire de l'ex-SIRVAEP et une sur le territoire de la ex-SIRDEC. L'ensemble des usines a produit 11 384 283 mètres cubes en 2019. Il y a 23 réservoirs ou bâches d'une capacité totale de 30 820 mètres cubes. Il y a 1 167 600 km de réseau de distribution. Il y a 74 857 branchements, dont 263 en plomb. Il y a 84 202 abonnés, représentant 200 762 habitants. La consommation globale facturée des communes de l'ancien SIRVAEP était de 7 112 354 mètres cubes et de 1 183 400 mètres cubes pour les communes de l'ancien SIRDEC, soit une hausse de 169 424 mètres cubes par rapport à 2018. Les rendements des réseaux s'améliorent. 82,8% pour l'ex-SIRVAEP, plus 4,1% par rapport à 2018. 73,6% pour l'ex-SIDERC, plus 4,3% par rapport à 2018. Les renouvellements réalisés par Suez Eau France ont été les suivants. 7,427 km de réseau et 938 nouveaux branchements. Alors pour Tri-Saint-Léger, ont été concernés la rue Curie, l'usine Fontenelle et la place de la Résistance. Pour conclure, le prix de l'eau au mètre cube était au 1er janvier 2020 à 2,63 euros, basée sur une consommation de 120 mètres cubes contre 2,40 € au 1er janvier 2019.
Merci Christelle, tu aurais presque pu faire sans le micro.
Oui, presque.
On t'a très bien entendu. Merci beaucoup Christelle. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Très bien. On met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Convention de partenariat avec le lycée Léonard de Vinci et bien sûr la ville. Je vais laisser donc Madame l'adjointe Malika s'exprimer.
Alors, ce projet émane à la fois du lycée et de la municipalité. L'idée, c'est de venir en aide aux étudiants et aux lycéens, dans le sens où les étudiants, par rapport à leurs difficultés financières, et les lycéens qui doivent produire sur les plateaux pédagogiques des plats, des desserts, du pain, etc., des pâtisseries, etc. La difficulté qu'éprouve le lycée, c'est la vente des productions qui partent à la poubelle quand on ne trouve pas preneur. L'idée était de mettre en place un projet de solidarité entre des jeunes de même âge, quasiment. Et montrer aussi par là que des élèves de section professionnelle pouvaient venir en aide à leurs pères qui, eux, sont plutôt... Alors, il ne faut pas le prendre, ce que je dis, de façon péjorative, mais c'est ce que ressentent les élèves de professionnels par des étudiants qui sont plutôt dans l'intellectuel, entre guillemets. Donc, c'est une façon aussi de créer un lien, créer du lien. Donc, la proposition qui est faite et qui sera, si le conseil municipal le vote ce soir, sera l'élaboration d'une convention entre la ville et le lycée. Donc, la ville achèterait les repas qui seraient offerts aux étudiants de la ville de Try, les étudiants de la ville de Try, c'est-à-dire les étudiants qui habitent la ville de Try. Ça veut dire que ce sont les étudiants dont les parents vivent à Try, mais aussi les étudiants qui viennent d'ailleurs faire leurs études sur Valenciennes ou sur le Mont-Houy. Une plateforme téléphonique est mise en place. Elle sera diffusée après le vote de ce soir. Les étudiants pourront téléphoner, s'inscrire, dire « moi, je voudrais tel jour ou tel jour ». La ville communique le nombre de repas au lycée et les étudiants iront au lycée, par contre, chercher ce qu'ils ont commandé. Et ensuite... Oui. Oui.
Vous verrez, il y a d'autres mesures derrière. Il y a
oui.
d'autres mesures derrière. Il y a encore d'autres mesures.
Mais oui, vas-y. Oui, vas-y.
On peut toujours faire plus. Hein, ça, c'est le débat qu'on pourrait toujours avoir. Mais à un moment donné, bon, ce qu'on fait, c'est déjà bien.
Je me doute de ce que tu vas dire, mais vas-y. Le problème, c'est qu'on risque de ne pas avoir assez après de production.
Après, oui.
Alors ça, c'est une bonne question parce que ça dépend de beaucoup de choses aussi. Donc ça va être commandé. Donc les élèves vont produire, mais alors pas produire comme ça, mais produire par rapport à la progression mise en place par les enseignants. En adéquation avec les référentiels, bien entendu. Il y a aussi cette contrainte-là qu'il faut prendre en compte. Non, c'est pas comme ça, non. Au CA du lycée, il y a des tarifs qui ont été votés, par le conseil d'administration. Et non, ce n'est pas dans cette démarche. Et il se peut, en temps ordinaire, que X repas soit prévu, et finalement, pour une raison X ou Y, qui est due à la vie du lycée, eh bien, qu'il n'y ait pas cette production, ou qu'il y en ait moins, ou qu'il y en ait une autre. Les étudiants, il faudra qu'on leur explique, ok, ils vont se positionner, mais ce qui est prévu, c'est un plat, un dessert, du pain en baguette, de la viennoiserie. On va nous demander, et ça, la convention va le stipuler de façon plus formelle, le délai de réservation. Parce que les étudiants sont quand même contraints à au moins téléphoner au moins une semaine avant, puisqu'il faut acheter les denrées. Ouais.
Et alors, c'est à destination des étudiants trittois, mais aussi ceux qui habitent la résidence universitaire, c'est ça ?
Non, je parlais des étudiants qui habiteraient, par exemple, des petits logements sur le Poirier. On a beaucoup d'étudiants.
Donc sur la commune de Trie.
Des locations,
oui. Ouais.
D'accord. Vous pensez qu'en ajoutant les jeunes actifs, on n'arriverait pas à les satisfaire, hein ? Faudrait voir. On peut commencer avec les étudiants et puis voir après.
Ouais, il faudrait faire un recensement, en fait.
Bah oui.
Pour l'instant, on va
fermer la porte aux jeunes actifs.
Pour l'instant, on va à l'aveuglette. Mais après, ouais. Il faut savoir aussi qu'on rentre dans le mois d'avril. Il ne restera plus que deux mois. Hein, parce que juin, c'est
au mois de mai, non, mais au mois de juin, il n'y aura rien, c'est sûr et certain.
Après,
et au mois de mai, je te coupe, excuse-moi. Et au mois de mai, mi-mai, je pense. On ne pourra pas aller au-delà parce qu'il va y avoir les examens du CAP fin mai. Et ensuite, nous, au mois de juin, tous les élèves partent en stage. Toutes les secondes, toutes les premières partent en stage. Et les terminales, bac et CAP, sont en examen.
Moi, je trouve très volontaire cette démarche d'aller vers les étudiants et de faire cette rencontre entre les étudiants du professionnel et les universitaires. Mais je m'interroge sur le côté pragmatique de la chose. Au niveau fréquence, vous offrez un repas par mois, par étudiant ?
Ah non, il n'y a pas de fréquence.
Tous les jours,
ils peuvent commander pour la semaine suivante. Voilà, il y a une plateforme téléphonique qui est mise à disposition des étudiants. Et ils téléphonent et disent, moi, je voudrais vendredi prochain ou jeudi prochain ou jeudi et vendredi. Je ne sais pas, j'ai n'importe quoi.
On estime la population étudiantine sur le Tri-Saint-Léger à combien
180,
c'est pas ça, 160
130.
Donc on peut livrer 130 repas, 5 jours par semaine,
pendant
3 mois.
On a déjà... moi, j'ai vu avec mon proviseur et monsieur le maire a rencontré monsieur le proviseur. Il n'y a pas de production lundi. Donc, les livraisons, c'est mardi après-midi, jeudi après-midi, et vendredi toute la journée.
Et du coup, ça me laisse dérouler c'est ma façon de penser. Certains étudiants vivent avec 45 euros par mois. C'est le témoignage que j'ai reçu quand je suis allé accompagner une jeune tritoise qui a fait une collecte de dons de denrées alimentaires il n'y a pas très longtemps. Je l'ai soutenu dans cette démarche-là et les étudiants sont à pied. Ils se retrouvent isolés sur le territoire, pour certains isolés sur le territoire français. Il y a pas mal de personnes qui sont origine du Maghreb ou des pays d'Afrique. Se déplacer de l'université, c'est ceux du Poirier. C'est le point de repas qui m'a inquiété.
Après, ce problème-là, lorsqu'ils seront reçus au téléphone, ils pourront l'évoquer et à ce moment-là, nous, on verra que dans quelle mesure, comment on pourrait les aider.
Il y a un côté livraison, enlèvement, un côté pratique.
Livraison, peut-être que ça peut se faire, ça je verrai avec Madame Legrand, la chef des travaux du lycée. Mais là, ça peut être à voir.
Un point
mais la convention, on n'a pas fini la rédaction de la convention. Donc, c'est des points, qu'il faudra aussi réfléchir.
Ça me semble intéressant aussi, parce que on pourrait ensuite, ce dispositif, l'utiliser pour les personnes âgées. On en avait parlé à la commission des œuvres sociales. et peut-être proposer aux personnes âgées ensuite à la rentrée, quand on espère le Covid sera moins virulent, pour recréer du lien entre les personnes âgées, eh bien, leur proposer d'aller au restaurant au lycée et pouvoir manger là. Mais bien sûr, là, il y aurait une contribution financière de leur part.
Oui, on l'avait déjà évoqué. Ça, ouais. Oui.
Après, pour précision, on parle de 138 étudiants, mais vous savez aussi qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont repartis chez eux, qui travaillent peut-être de chez eux. Donc, l'effectif va être un peu diminué. Voilà. C'est bon ? Il y a des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Alors, mise en place du dispositif passe-permis citoyen. Donc là, je vais laisser la parole à Madame Brugman. Je n'ai pas sauté une ligne, hein ? Non, c'est bon ? Ouais, parce que j'avais ça dans... Comment ?
Alors, la commission formation insertion handicap a travaillé sur le dispositif passe-permis citoyen au cours de sa réunion du 26 novembre 2020. À savoir que tous ses membres y sont favorables à l'unanimité. Le passe-permis citoyen consiste à allouer une aide forfaitaire aux jeunes âgés de 17 à 29 ans, domiciliés à Trissin-Léger, passant leur permis de conduire pour la première fois, titulaire ou non du code. Cette aide est versée en contrepartie d'une action citoyenne de 70 heures au sein de la collectivité ou d'une association de Trissin-Léger. Les dossiers de candidature seront examinés au regard des critères suivants. Urgence de la demande par rapport à une entrée en formation ou à l'accès à un emploi. Teneur du projet professionnel ou de formation, d'ailleurs. Nature de la contribution citoyenne proposée, recherche d'aide supplémentaire pour financer le permis de conduire. Le montant de l'aide financière est fixé à 650 euros par jeune.
Précision, donc, c'est des dossiers anonymes.
Dossiers anonymes.
Voilà. Et quand on dit Tritois, c'est Tritois avec des parents Tritois. Ce n'est pas comme les repas où c'est des résidences sur le territoire.
Foyer fiscal c'est vraiment parental pour nos tricots, hein. Situé à Trissin-Léger.
Donc, sur les critères en fait d'attribution, qu'est-ce que vous entendez nature de la contribution citoyenne proposée ?
En fait, dans leur dossier de candidature, ouais, ils vont nous proposer une action, soit dans une association, soit dans un service de la ville. Donc, ça peut être une action au sein d'une association sportive, ça peut être une action au sein du CCAS.
Et cette action, c'est en plus des 70 heures qu'ils font ?
Non, ce sont les 70 heures.
Ah, d'accord, ok.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Ce sont les 70 heures. En fait, dans le dossier de candidature,
d'accord,
ils doivent
décrire...
Les 70
heures ne leur sont pas imposées sur une thématique particulière.
Non, pas
ils
du tout.
Ils choisissent ce qu'ils veulent faire.
Justement, en fonction de leurs compétences.
Et alors, recherche d'aide supplémentaire, vous pensez qu'ils peuvent aller... Enfin, il y a des aides particulières pour le permis ?
Alors,
déjà existantes ?
Il y a des aides qui sont existantes au niveau du conseil de la région, régional, conseil régional.
Ok.
Aussi pour les jeunes en formation professionnelle, dans les CFA, ils donnent
aussi
une enveloppe,
oui,
de 500 euros,
oui,
pour passer le
permis. Pour les contrats d'apprentissage, tout à fait.
Oui, comme mes collègues, nous sommes vraiment plutôt favorables par rapport à cette délibération. Maintenant, j'en alerte mes collègues de cette commission-là et de notre adjointe d'être vigilants justement sur ces missions qui seront sollicitées, sur ces actions-là. Je pense qu'il faudra que les objectifs soient bien clairs. Évoluable et mesurable. Il faudra qu'on puisse faire quelque chose de sérieux. Il ne faudrait pas que la notion de citoyenneté soit un peu faussée en acceptant des missions qui n'en soient pas des réelles missions. Il ne faudrait pas qu'on prenne un gamin pour qu'il regarde comment ça se passe. Il faut vraiment qu'on soit vigilant là-dessus, je pense.
D'accord.
Alors, vous le serez vigilant puisque les dossiers seront exposés en commission. Oui. Et donc, je ne vais pas décider seul de qui aura la subvention.
Mais le suivi.
Ce sera fait en commission.
C'est par rapport au suivi sur le terrain, quoi, c'est ça.
Alors, on va nommer un tuteur.
D'accord, ok. Et moi, j'ai une petite question, parce que je pense que la commission avait proposé la tranche 17-30 ans, et là, sur la délibération, c'est 17-29, il y a une raison particulière.
Non, on a mis 29 ans révolus, la veille de 30 ans.
Il me semble que sur le compte-rendu, c'était noté 17-30, mais bon, c'était juste...
29 ans révolus, me
semble. 29 ans révolus, ok.
Et 364 jours.
Mais la problématique de l'encadrement, on va la retrouver pour les tiges. Mais on avait soulevé la question aussi l'année dernière pour les jobs d'été. Hein, la problématique est la même.
Là,
et
il
y a une réflexion, il y a une réflexion à avoir là. Et parce que ce serait vraiment l'occasion pour ces jeunes de vivre une expérience. Encadré, et pourquoi pas encadré par un éducateur. Est-ce que la ville ne pourrait pas examiner cette possibilité, par exemple dans l'horticulture, quand on voit certains parcs, hein, vous le notez d'ailleurs, par ailleurs, qui sont vétustes et qui auraient besoin d'être entretenus, et ben pourquoi pas encadrer les jeunes et leur demander de peut-être s'investir à ce niveau-là. Bon, il y a certainement d'autres domaines aussi où ils pourraient s'investir. Moi, j'ai entendu les parents de l'école Jean Massé se plaindre du manque de sécurité aux abords de l'école. Et une maman se rappelait ces personnes qui étaient en contrat à la mairie et qui avaient un gilet jaune et faisaient la circulation à proximité de l'école. Ben, peut-être que là aussi, certains seraient intéressés pour être là et encadrer les enfants et demander aux personnes qui stationnent là devant l'école et qui mettent en danger les enfants de circuler. Hein, on pourrait imaginer des missions de ce style-là. Tout le monde serait gagnant.
Alors, souvenez-vous, les animateurs de 50 ans ont ramassé les enfants dans tous les quartiers de la ville pour aller au centre aéré le matin. Et ça pourrait être une opération intéressante de sensibilisation à aller se rendre à l'école à pied, accompagné.
Sur la commune, on a quand même dans nos employés des gens compétents. On a quand même des gens qui savent manager, qui savent gérer des équipes. Le sujet des jobs d'été, on en a justement parlé en CT ce matin. On va revoir notre copie parce que je pense que oui, il faut que les gens ils aient un peu la valeur du travail, ce qu'est le travail, et pas avoir une image péjorative du fonctionnaire, en fait. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, tu parlais des parcs, Nathalie, tu verras dans le budget qu'il y a des choses qui vont se mettre en place justement pour remettre au goût du jour, à éliminer, à supprimer, à améliorer. Mais on a une végétation très, très vieillissante. Et c'est le moment de petit à petit de pouvoir régler tous ces problèmes-là. Vous le verrez dans le budget de toute façon. Hein.
Oui, oui. Mais alors justement, pourquoi pas utiliser, parce que j'en ai déjà parlé hein, l'année dernière, j'avais eu une conversation avec Charles, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Bien sûr, il y a des personnes compétentes à la ville, ça je le sais, mais. Elles ont beaucoup de travail et d'encadrer des jeunes, c'est beaucoup de boulot et on ne peut pas leur demander d'être sur tous les fronts. Et puis ça demande aussi une démarche pédagogique et éducative et ça demande des gens formés à ce niveau-là. Il faudrait voir avec eux, mais...
Après, on pourrait rencontrer un souci matériel parce que plus il y a de personnel, après, tu as les véhicules à disposition, le matériel technique à disposition. Donc, il faut aussi qu'on reste dans un cadre gérable pour la collectivité et ne pas mettre de surcoût sur tout ce qu'on veut mettre en place parce que vous le verrez dans le budget. On essaie d'être au plus juste, au plus serré pour gérer l'argent du contribuable au mieux, comme on le fait toujours. Et on ne peut pas non plus s'éparpiller dans tous les domaines parce que je pense qu'à un moment donné, on va plus s'en sortir et on va s'apercevoir que l'enveloppe va très, très vite monter.
Bah pour moi, ce serait de l'argent bien, bien investi.
Elle est déjà bien investie.
Que d'encadrer des jeunes, de les former peut-être que au niveau du comportement, ça, même, on
vous l'avez remarqué et vous l'avez validé lors d'une délibération. Mon souhait, c'est de faire de la formation interne aussi dans notre collectivité. Les apprentissages, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on développe. Dans le Triscope que Christophe a en face de lui, et j'en suis très satisfait, il y a un article sur les jeunes en stage qu'on a aussi accueillis. Donc on développe toutes ces choses-là.
Oui, bien sûr.
Mais bon, on mais a quand on même peut... un an de mandat presque, ouais. Petit à petit.
Oui, ouais, ouais. Mais cette problématique des jobs d'été, quand même, elle existe depuis un moment. Et
on en est conscient.
On voit à travers le comportement de certains jeunes dans notre ville qu'il y aurait à faire quelque chose au niveau d'une démarche éducative. Donc, pourquoi pas là ?
Comme je disais, on avait réunion CT ce matin, Alain était présent, et c'est un sujet qui n'était pas dans le débat de l'ordre du jour, mais c'est un sujet qu'on a abordé, qu'on a discuté, parce qu'il faut de l'encadrement, il faut leur donner la valeur du travail, il ne faut pas que ce soit comme ça, prendre des jeunes pour prendre des jeunes. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas pour. C'est bon pour cette délibération. Donc le permis, passe-permis, citoyen, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Prestations offertes aux administrés de la commune. Donc là, c'est une demande de la perception, hein, le trésorier municipal, qui demande d'énumérer. C'est pour ça que vous avez une délibération avec plein d'actions que l'on mène déjà sur la commune. Il nous demande de passer une délibération parce qu'on devra la joindre lors du mandat de paiement. Il faudra joindre les informations. C'est juste une partie administrative qu'il faut mettre au goût du jour, les mettre en place pour qu'ils sachent qu'est-ce que nos administrés sur la commune peuvent bénéficier. C'est juste de l'administratif. Il y a des questions là-dessus ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, on en parlait justement, les tiges. Donc là, je vais plus laisser la parole à notre adjoint de la sécurité, M. Dominique Prézeau. Micro, ouais.
Donc, on nous propose...
Mets-le devant ta bouche. On t'entend pas, mets-le devant ta bouche. Il est peut-être coupé, non ?
Allô ? Allô ? C'est mieux. On nous a proposé d'accueillir au niveau de la ville de Trie des jeunes en tige, en travaux d'intérêt général. Proposition faite par le SPIP de Valenciennes. Donc, qui nous propose d'accueillir deux jeunes pour une durée n'excédant pas un mois pour nous mettre à disposition. Ce seront deux jeunes qui seront pris en charge par des référents dans divers secteurs. Des espaces verts, peinture, qui seront pris en charge par des référents qui se sont portés volontaires et qui ont déjà encadré des tiges et autres jeunes il y a quelques années de cela. Donc normalement, ce sera pour une durée d'un mois, ce seront des jeunes majeurs, de 18-25 ans normalement sur... Si j'ai bien suivi, c'est ça, 25 ans, oui. Ces personnes qui seront ciblées, on ne mettra pas de grands criminels.
Grosse délinquance.
Ouais, ouais.
Bon, après, des sanctions telles que celle-ci, ce n'est pas non plus la grande délinquance.
Non, mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment bien encadrées, qui seront...
Micro.
Toujours micro, oui. Voilà, normalement, ça devrait bien se passer.
Des questions sur le sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Là, c'est moi, hein, épicerie solidaire. Alors, vous savez que sur l'université, il y a une épicerie solidaire qui s'appelle Agorae. L'idée, alors on les a rencontrés, on a discuté avec ces personnes de l'université. Et quand je disais tout à l'heure, on fait pas mal d'actions pour les étudiants. C'est une encore supplémentaire. Ou si vous le validez, on pourrait verser une subvention de 5 000 euros. Ouais, c'est ça, 5 000 euros, pour pouvoir donner un petit coup de pouce à cette épicerie solidaire qui est donc fréquentée par les jeunes qui sont sur le pôle de l'université du Mont-Buis. Question ? Vas-y.
Non, la mairie, c'est vrai, la commune, c'est bien, elle fait beaucoup de choses pour les étudiants, mais on peut se féliciter aussi que nos concitoyens se mobilisent et malheureusement, on ne le dit pas assez, il y a des associations à Tri et au Poirier qui ont participé à la collecte de denrées, de produits d'hygiène activement et qui ont ramassé un beau volume pour les étudiants. Donc ce serait bien qu'on les mette un petit peu à l'honneur parce que c'est notre rôle d'élu d'encourager ce genre de démarche.
Il n'y a pas de souci. Tout le monde met son petit pied à l'édifice, donc c'est très très bien. Et je pense que ça va leur donner un bon coup de pouce et ça me semble logique de pouvoir le faire aussi. Qui est contre ? Ouais, là c'est pas moi qui maîtrise. Je pense que pas avant l'année de démarrage de septembre. On verra. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Eh bien, c'est encore toi, Malika. Aide exceptionnelle aux étudiants. Donc, c'est la 1, 2, 3, 3, 4. Et c'est la dernière aide qu'on peut encore faire à nos étudiants. Le micro y arrive.
Donc, encore une action en direction des étudiants tritois. On propose que le conseil municipal accepte une aide exceptionnelle de 100 euros aux étudiants de la ville. Ils bénéficient déjà de la bourse communale de 125 euros. Et là, à cause de la condition, je ne sais plus parler, je suis fatiguée, de la situation sanitaire et des difficultés, hein, on en revient toujours à la même chose, il est proposé de façon exceptionnelle cette année. Après, on verra, mais cette année, de leur verser une subvention de 100 euros. Bien entendu, il faut qu'ils en fassent la démarche. Mais c'est la même démarche que pour les bourses communales, c'est-à-dire venir en mairie avec un certificat de scolarité.
Les mêmes critères, oui.
Et c'est les mêmes critères, mais il faut quand même qu'ils... ce sont les étudiants tritois, donc ils peuvent venir déposer... leur certificat de scolarité en mairie. Il faut juste ça. C'était ça qu'on demandait, hein, juste le certificat de scolarité habituellement. Hein. On ne demandait pas de justificatif de domicile. Non. Voilà. Et puis le RIB, oui, évidemment. Peut-être.
Peut-on l'étendre ?
Donc pourquoi ne pas l'étendre aux jeunes actifs ? Ce serait complètement légitime. Ceux qui sont sans emploi actuellement et qui galèrent parce qu'ils n'ont aucun revenu.
Oui, c'est vrai, mais alors on n'a pas prévu l'enveloppe. On dit on n'a pas prévu l'enveloppe.
Pardon ?
Donc, Si, pour les étudiants, on a prévu l'enveloppe. Oui, mais c'est pour l'extension aux jeunes actifs, comme tu le proposes.
Donc ils vont faire les frais de vos conséquences.
Non, c'est pas ça. On termine le débat et notre échange. Donc, donc on va regarder à ce que l'on peut faire. Il faut aussi que l'on recense parce que il faudrait pas qu'on se retrouve avec un nombre. Je comprends. Il faut qu'on recense.
J'espère bien que ils sont pas aussi nombreux que ça à désalléger. Sinon, il y aurait de quoi s'inquiéter pour nos concitoyens. Il faudrait faire encore davantage.
Voilà.
J'ai peut-être un élément de réponse, Malika. Je suis désolé. L'INSEE dit que si les moins de 25 ans à Tri-Saint-Léger ne sont pas étudiants, la moitié est au chômage.
Nous allons procéder à un recensement.
Alors, faisons les comptes. Faisons les comptes avant de.
Nous allons procéder à notre recensement.
Mais on peut toujours faire plus, hein, on peut toujours surenchérir. Après, des communes qui ont les moyens, comme Tri-Saint-Léger, encore aujourd'hui, si chacun mettait sa petite pierre à l'édifice, tout le monde pourrait participer, tout le monde pourrait faire. Et c'est quand même l'argent des administrés tritois. À un moment donné, on peut faire des gestes, des efforts, comme on fait très bien maintenant. Mais il faut se raisonner aussi, parce que on va parler du Europe après, on va parler du budget prochain conseil. On a un peu d'argent, mais à un moment donné...
Il faut être juste aussi. Et on n'est pas là dans la surenchère. eux à égalité avec les étudiants.
Non, mais on parle des jeunes, enfin, on peut parler de beaucoup de choses, mais tout le monde est en difficulté, malheureusement. Et après, j'aime l'abbé Pierre, hein, c'est mon idole. Mais à un moment donné, voilà, mes recettes ne me permettent pas d'aller trop loin dans des démarches comme ça financières.
Mais nous sommes des élus et il est hors de question de faire ce genre de discrimination.
Non, c'est pas discrimination. C'est une discrimination.
Pourquoi plus les étudiants que les jeunes actifs sans ressources?
Il y a un vecteur méritocratique pour les étudiants. Là, c'est moins de 25 ans qui ne peuvent pas bénéficier du RSA. Ils n'ont plus accès à des petits jobs.
L'État, ça part de travail aussi. Hein. Je ne me rejette pas sur l'État, mais à un moment donné, la collectivité allégée ne peut pas porter toute la misère du monde non plus. Hein.
Mais oui, mais pourquoi la mairie de Trissin-Léger choisirait plus les uns que les autres?
Vous, élus, vous allez voter ce soir pour des aides qu'on vient de faire. On a parlé de 5 000, on a parlé de 100 euros qui va se multiplier, on a parlé des repas qui vont se multiplier. Je vous dirai l'enveloppe à la fin et vous direz « ah ouais, quand même ».
Bah alors, peut-être qu'il faudrait reconsidérer cette prime de 5 000 euros à l'épicerie et voir à peut-être
ça,
aider
c'est
en priorité
la discrimination aussi. Alors dans ces cas-là.
Les tritois. Ah ben non, parce que ce sont des tritois, des jeunes actifs tritois. Donc aidons d'abord les jeunes tritois, puis voyons après pour le reste.
Hein. Bon, c'est bon sur ce sujet. Il y a d'autres questions?
Parce qu'on a dit qu'on allait recenser les jeunes, voilà.
Non, mais ce que je suis en train de dire, Nathalie, on est quand même des élus responsables. On a un budget à maîtriser, à gérer. On peut toujours faire plus. Je suis d'accord. Si, moi, personnellement, si on pouvait le faire, on le ferait. Toute la misère du monde, on pourrait la prendre, mais c'est pas possible. Après, je trouve que Trissin-Léger, vous, élus responsables, on fait déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous entendez dans les communes environnantes qui ont les moyens? Parce qu'il y a des communes qui ne pourraient pas le faire. Ils n'ont même pas de budget pour faire un bout de trottoir. Mais à un moment donné, on essaye d'avancer, on essaye de faire des actions positives pour moi, mais on ne peut pas s'étendre dans tous les domaines. Ben voilà, c'est ça que je suis en train de
dire. Moi, je veux juste...
Vas-y.
Je veux juste dire que cette démarche, elle est très bien, mais ce qui me fait peur, en fait, avec ça, c'est qu'au final, j'ai peur que cette somme de 100 euros, elle parte peut-être dans des foyers où les deux parents travaillent, assument à 100% l'étudiant sans aucune difficulté, et qu'à côté de ça, on ne puisse pas aider effectivement un 18-25 ans qui, lui, n'a pas le RSA. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu des critères supplémentaires, un peu comme les tickets de cantine, où c'est par rapport à l'avis d'imposition des parents, ou, enfin, je ne sais pas. Ces documents samedi matin, en fin de matinée. C'est juste une suggestion, voilà. Un apport
mais,
visé, mais c'est moi ce qui me fait peur avec cette...
Non, mais là, on est sur une subvention exceptionnelle. C'est vrai qu'on vous a proposé pour les 18 ans. On a entendu votre proposition de l'étendre aux autres jeunes. Nous allons les recenser. Et voilà, j'espère qu'on va donner une suite favorable. Voilà. Mais voilà. Oui, oui, mais... Oui, mais justement, les critères, mais comme ça a un caractère exceptionnel, voilà, moi, j'ai pas vu la nécessité de mettre des critères. Voilà, ça a un caractère exceptionnel et on va regarder à l'étendre comme vous nous le proposez. Voilà.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la grosse partie, services financiers. Bon, je vais pas tout vous lire. Le dossier que vous avez eu, je suppose que vous avez le temps d'y travailler et d'identifier les questions à poser. Donc s'il y a des questions, bah, c'est le moment, n'hésitez pas. Si on ne sait pas y répondre, les techniciens sont derrière moi pour y répondre. Et c'est là que vous voyez toutes les sommes qu'on dépense.
Tout à fait.
Et je ne dépense pas plus que je ne peux avoir.
Non, mais je suis d'accord et je suis dans le domaine, donc
super.
Je comprends ça.
Hein? Oui, bon.
Alors, par contre, Moi, je voulais avoir des précisions sur le budget, donc sur le réalisé 2020.
Oui.
Au niveau des charges...
Alors, tu as une page pour qu'on suive tout.
La page 2.
La page 2. De l'annexe 1 ou attends, on est...
Annexe 1, page 2.
D'accord.
Fonctionnement dépenses. En fait, je constate que sur certains pôles, comme le gaz, enfin chauffage bâtiment, ça a flambé. Du coup, je me demandais d'où venait cette augmentation. On voit qu'en plus, sur ces pôles-là, ça a pas mal augmenté un peu partout. Et ce qui me surprend aussi, c'est que donc on a déjà une augmentation par rapport au réalisé 2020. Et quand on part sur le prévisionnel 2021, on part encore sur une flambée.
Oui. C'est bon, cette question-là ?
Donc en fait, l'augmentation vient entièrement de la piscine ?
Entièrement, je ne sais pas, mais...
Pas entièrement, mais une grosse partie, c'est la piscine. Avec l'ouverture de la piscine en 2020,
d'accord.
Il a fallu chauffer les bassins. Et après, bon, ça s'est arrêté. Et pour 2021, on sera obligé de remettre
d'accord, je me suis
plus.
Ah oui, on continue à chauffer. Ah oui, on continue.
On continue à chauffer.
Et pourquoi faire ? Pourquoi ?
Un peu moins, mais...
Comment ?
80 000 euros pour 2 mois d'ouverture.
Oh, prends le micro, s'il te plaît, quand même.
Pour les étudiants,
il va courir, DJ.
Donc la piscine, on continue toujours à chauffer. Donc, on chauffe l'eau, on chauffe le bâtiment. Bien sûr, on réduit...
On est à l'hiver aussi.
Voilà, on réduit un peu les températures. Bon, et il faut savoir aussi, vous avez des augmentations, comme tout à chacun, vous le voyez sur votre facture. Chauffer un tel bâtiment, il faut savoir qu'au niveau de la piscine, on a le grand bassin, le petit bassin et un nouveau bassin qui s'est fait sur le côté d'entraînement. Voilà.
Non, mais je posais la question parce que dans la ligne chauffage-piscine, il n'y avait rien de renseigné. Donc je me demandais...
On a commencé à chauffer la piscine que l'année dernière, hein. 2020.
Oui, je suis en train de parler du bilan 2020.
Ah, d'accord. Oui, qui est revenu, bien sûr. Voilà, ça comprend également les prestations, de maintenance, traitement d'eau, traitement d'air en plus, la partie des installations électriques.
Et donc, dans le prévisionnel, dans l'orientation 2021, le fait de passer encore à 2 178 200 fait que c'est encore une anticipation de la piscine ?
C'est la prévision qui a été mise par rapport... Oui.
J'ai pris le global achat non stockable et non stocké. J'ai tout globalisé, en fait. J'ai pris la ligne qui globalise tout. Le réalisé 2019, 1 681. En réalisé 2020, 1 687. On voit quand même une légère augmentation.
Ah oui,
et là, on passe à 2 178 200 sur le prévisionnel 2021. Donc j'espère quand même que la piscine ne va pas nous coûter autant.
Non, toute l'augmentation n'est pas due à la piscine, hein, parce que vous avez des articles...
Oui, après, si on va en bas, oui.
Vêtements de travail, les locations mobilières, vous avez les combustibles, l'alimentation, restaurant scolaire. Bon, ça fait partie de tout ça. Hein.
D'accord.
En 2020, il n'y avait pas eu de réalisation pour le chauffage piscine parce que c'était pas le contrat. Le contrat il est débuté en octobre. Donc on n'a pas eu de facture à payer avec le nouveau prestataire.
D'accord.
On commence à payer cette année.
D'accord, non. Ok.
Voilà.
Le micro, s'il te plaît.
Juste une question technique pour moi, pour mon information personnelle. C'est-à-dire que la piscine qui est complètement inutilisée, on est tenu techniquement de continuer à la chauffer. à température d'un fonctionnement normal. Je veux dire, il n'y a pas de seuil où on pourrait mettre en veille ou ce genre de choses.
Si, je viens de le dire tout à l'heure, on continue à chauffer, mais avec des températures moindres, sauf quand il y a des activités qui reprennent un peu. Il faut chauffer l'eau, d'accord ? L'eau se repasse par un chauffage pour avoir la bonne température. Nous avons aussi les volumes du bâtiment à chauffer. La piscine, il y a quand même encore des activités, il y a quelques activités. Hein. Certaines activités sont autorisées au niveau de la piscine, ça faut le savoir. Hein.
Bah moi, je ne sais pas, c'est lesquelles ?
Comment ?
Je ne savais pas, j'ai lesquelles d'activités ?
Ah bah là, il faut voir j'ai eu, des sports.
J'ai eu il n'y a pas très longtemps, Robert peut en parler, mais pas cette fois-ci, il y a quelques mois, une personne qui passait un concours de gendarmerie. Et il voulait donc s'exercer, il y avait le droit, il y avait la possibilité de le faire. Donc c'est vrai que pour une personne, il allait dans le bassin, on l'avait autorisé. Et après, on parlait aussi à une époque de personnes avec des handicaps, des choses comme ça. Elle est quand même restée à un moment donné possibilité d'ouvrir, suivant les demandes de personnes qui étaient autorisées à pouvoir exercer, à pouvoir entrer dans la piscine. Il y a eu cette période, hein. Ouais, les scolaires, mais ça s'est arrêté un petit peu après.
Je voulais aussi savoir dans quel poste vous imputez les charges de fonctionnement de la vidéosurveillance. Ça va dans quelle ligne ?
Il n'y a pas pour l'instant de charge de fonctionnement de la vidéo. C'est que l'investissement.
C'est que l'investissement et on vient de passer la fibre max qu'on vient de passer aussi en arrêté à 70,70 € par mois, c'est tout.
Oui.
D'accord. Donc pour l'instant, encore
on vient de
aucun...
le dire, on vient de le dire en début de séance.
Ok.
Non mais. Il y a juste la fibre max qu'on a citée tout en début de mandat. Après, ça fonctionne simplement avec de l'électricité. Donc actuellement, pour l'instant, c'est que des installations neuves. C'est la liaison qui existe, je vous dis, en fibre max, qui a été donnée en début de mandat à 66,70 € par l'abonnement. Et c'est de l'électricité. Il n'y a que de l'électricité pour l'instant. Et ensuite, au fur et à mesure, il s'agit d'installations neuves. Les logiciels sont installés, les écrans sont installés, les caméras sont là, fonctionnent. Et il n'y a pas à prévoir de gros frais de fonctionnement ni de réinvestissement sur ce qui existe à l'heure actuelle.
Il n'y a pas de contrat d'entretien.
Le contrat d'entretien va se faire pour l'instant, on va être en garantie de parfait achèvement, les garanties sur la partie d'un an du matériel installé. Et c'est très minime qui sont repris dans les frais, comme pour la partie de l'éclairage, etc. Mais c'est très, très minime.
D'accord. Donc là, sur l'orientation 2021, je ne verrai rien. Ça sera sur l'orientation 2022.
Peut-être. Mais si ça fonctionne bien, ça sera epsilon.
Ça va bien vieillir.
D'accord. OK.
Kamel va s'expliquer, mais ça, enfin, Kamel ou Dominique, ça a été. Alors, tout est en route, tout est.
Il y a peu de temps, non, puisque moi, je me suis fait avoir et je ne peux pas compter sur les caméras.
Mais le problème, c'est qu'au niveau de la sous-préfecture, on avait quelqu'un qui. Enfin, il faisait un peu du zèle, on va dire, hein, sur nos dossiers. Et à chaque fois, il fallait répondre à des questions. En fait, l'idée des services de police, ils voulaient des caméras, mais pour que ça leur serve à eux. Ils voulaient l'orienter de façon à ce que ça soit utilisé par eux et pour eux. Mais nous, le but, c'était quand même de voir des caméras, qu'ils aient pas des vues sur les parties privées des administrés, mais qu'on puisse veiller à certains secteurs dont on sait qu'il y a quelques problèmes sur ces quartiers-là. Non, mais on a travaillé, mais on est tombé sur un Luluberlu. Ça existe, hein ? Oui. Kamel peut en parler beaucoup plus, et Dominique, mais le dossier, il partait, il nous le renvoyait, il repartait, il nous le renvoyait. À un moment donné, on a tapé du poing sur la table et on a dit stop, arrêtez, vous nous faites tourner bourrique. Là.
Donc maintenant, c'est bon.
Maintenant, c'est
bon. On a l'autorisation et elles vont pouvoir être utilisées.
C'est ça.
Mais est-ce que vous pourriez nous dire globalement où on en est là par rapport au coût des caméras?
Oui. En 2018, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, 2018, on avait une enveloppe de 100 000 euros que monsieur le maire précédent et les élus précédents avaient mis sur la ligne, qu'on n'a pas dépensé. Donc on l'a reporté à l'année suivante. Donc il y avait ces 100 000 euros. 100 000 euros. Donc après, on a fait donc un budget de 300 000. C'était ça, Camilla, 200. Ça faisait 300 000 euros qui étaient sur une année. Tu veux mettre ton micro devant toi? Ouais, vas-y.
On avait d'abord un crédit. Alors attendez, j'essaie de retrouver 400 000, mes chiffres. Si on part tout de suite sur 2020. Le seul crédit vraiment pour les caméras qui était vraiment figé de 400 000 euros. Sur ce crédit, il faut savoir qu'il a intégré, je veux dire, bien sûr, les reports des fameux 100 000 euros des années antérieures. Donc, pour l'instant, faut partir sur 400 000 euros TTC. 400 000 euros TTC pour cette année 2020. À savoir, vous avez voté en fin d'année. Parce que les caméras, c'était des bâtiments. Il y a eu directement une décision modificative que vous avez votée au mois de décembre pour transférer la ligne, pour la remettre sur l'autre ligne. Et je vais vous la donner. Alors, attendez.
Tu l'as,
Tony ? Alors, voilà.
231-550.
Voilà, c'est bien ça. Donc, la ligne budgétaire 231-34-93, installation des surveillance caméra, des ouais. bâtiments communaux. Donc a été, on a réaffecté sur la ligne budgétaire 231-550, éclairage public et enfouissement des réseaux. C'est simplement une valeur comptable qui se dit d'un côté là j'ai un article sur les bâtiments et comme on a fait beaucoup de génie, on a fait du génie civil, opération greffe, pour éviter d'avoir des pylônes, pour avoir de la fibre complètement enterrée et également et ainsi des travaux sur le paillet. À hauteur de 12 000, je reprends mes chiffres, 12 905,36 € TTC. Sur le, ça nous donne sur la partie des caméras, une dépense de 285 000. Je reprends le chiffre exact, c'est
369,04.
Voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher tous mes chiffres. Et il faut savoir quand même qu'il s'agit de travaux d'investissement, donc vous récupérez votre TVA sur ce montant-là. Le montant hors taxe de ce 285 000. En fait,
globalement, vous voulez savoir combien ça coûtait pour l'instant, c'est ça? Vas-y, quand même.
Oui, total. Mais
combien? 400? Moins de 400? Moins de 400 000 par an. Voilà. Moins de 400 000, et là, vous verrez qu'on a, on devrait repasser une enveloppe de 100 000, mais c'est, on le met sur la ligne, mais après, on verra si on l'utilise ou pas.
Maxi 500.
Avec l'année 2021, si on met en place les 100 000, qu'on dépense les 100 000. D'accord. Avec l'année 2021, 400 000 plus 100 000, ça ferait 500 000. Mais les 100 000 ne sont pas encore dépensés. On attend le vote du budget pour voir si on fait quelque chose vis-à-vis des caméras avec les 100 000 qu'on a budgétisés pour l'année 2021. Les moins de 400 000 sont dépensés.
Oui, mais je tiens à rajouter, c'est des travaux d'investissement, donc vous récupérez votre TVA. Hein. Ouais, c'est 400 000 TTC. Hein.
Ok. La CAPH, dans ses compétences, la vidéosurveillance, est-ce que la CAPH a participé à
non.
l'équipement de la ville? Est-ce que la ville a aussi demandé une participation du FIPD, du Fonds interministériel de prévention de la délinquance?
Non.
Parce qu'il fallait la demander avant l'installation des caméras. C'est un fonds d'environ 66 millions d'euros, programme délinquance 31 millions, programme radicalisation 15 millions, programme sécurisation 15 millions pour la vidéo protection dans les villes comme la nôtre. Est-ce que la région a aidé? Parce qu'elle aide aussi la région. Est-ce que la région a aidé? Non. Est-ce que le département a aidé? Non. Alors le conseil départemental justifie par la fonction de chef de file et la solidarité des territoires, article 1111. Du CGCT, le versement de subventions d'investissement aux communes en vue du déploiement de caméras de vidéoprotection. Mais il faut faire les demandes avant de poser. il y avait peut-être eu une précipitation. Rapport de la Cour des comptes, octobre 2020. L'augmentation sur le département du Nord de caméras est jugée disproportionnée au regard des nécessités d'ordre public. Je poursuis. Le sujet est qualifié de sensible et juste politique, car pratiquement, statistiquement, on est à de 1 à 3% des enquêtes sont élucidées grâce à la vidéoprotection. 1 à 3% des enquêtes sont élucidées. Pour faire une enquête, il faut déposer plainte. On vous vole un petit objet, on vous dit vous avez 4 heures de dépôt de plainte, vous n'y allez pas. Donc il y a environ un délit sur deux qui n'est pas suivi de plainte. Ou même davantage.
Ça, c'est plus trop vrai parce que je sais qu'on a un lien
direct
avec les services de police où on peut prendre rendez-vous hein, maintenant.
Oui, et puis on peut pré-remplir le dépôt de plainte, mais c'est assez compliqué.
Parce que nous, ça les services, pas. Avec certains incidents, on prend rendez-vous et le lendemain, ils sont pris tout de suite. Hein.
Et donc le sujet semble être plus une question de politique de séduction, de guichet ou électoraliste, que d'efficacité du rôle du premier magistrat et officier de police judiciaire qui est de la compétence du maire.
C'est pour ça qu'on a de la demande des habitants où vous voudrez mettre des caméras partout.
L'efficacité s'évalue par les mesures que nous vous proclamons depuis maintenant une année, la proaction et, pourquoi pas, la mise en place d'un CLSPD. La prochaine étape de la vidéoprotection seront les caméras embarquées dans les voitures des publics, et pourquoi pas avec la reconnaissance faciale, les drones, l'anticipation des actes délictueux, comme dans le film futuriste Minority Report. Car comme vous le savez, Blanquer et l'État fichent nos enfants dès la maternelle avec un questionnaire demandant si l'enfant coupe la parole de la maîtresse, s'il est contrarié, si ses plans sont changés et s'il trouve des idées à jouer tout seul, s'occuper tout seul. C'est une révélation Mediapart.
C'est dans une gazette que tu as trouvé tout ça ou...
Mediapart, non, monsieur le maire.
Eh bien.
Je me demandais si c'était ça qu'on voulait en fait, à terme. En clair, les caméras, c'est peut-être bien pour résoudre 1% des affaires. 1% des enquêtes élucidées. Le reste, c'est la proactivité. Le reste, c'est de l'éducation spécialisée. C'est l'éducateur de rue. C'est du centre social. Le reste, c'est ça. La prévention. La proaction.
Voilà, vous nous disiez que cette prévention, cet encadrement des jeunes, ça coûtait cher. Mais peut-être que là, il aurait fallu réfléchir davantage, quoi. Les caméras, oui, mais est-ce qu'elles ont une réelle efficacité dans la prévention de la délinquance, etc. Les chiffres montrent que non. Et puis les habitants voulaient des caméras. Ils veulent aller sur la Lune aussi, une fusée pour aller sur la Lune. Non, ce n'est pas un bon argument. On ne peut pas non plus, comme vous le disiez tout à l'heure avec l'abbé Pierre, hein, on ne peut pas jouer non plus au Père Noël.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions sur des sujets plus... d'autres sujets ? Parce que là, vous êtes dans un délire. C'est bon
Alors,
tu peux y aller, s'il te plaît.
Je voudrais
On va avancer un petit peu quand même. Vas-y.
Je voulais savoir dans quel poste vous mettez tout ce qui est budget d'impression, communication, tout ce qui est triscope. Dans quelle ligne je peux retrouver ? Moi, j'aurais mis 62, mais...
C'est au 623-6, catalogue et imprimé.
123 ?
Alors,
ah oui, c'est quelle feuille ? Parce que j'allais dire, classe 1, c'est pas possible.
C'est la page 3, monsieur le maire. Catalogue et imprimé.
D'accord, ok.
Et la distribution se fait au 604-2. Dans la page 2, c'est des prestations de services.
Ok. Est-ce qu'il est possible d'avoir le détail de ce poste ? Donc on a dit 62-36.
Tout est dans les documents, le détail de quoi ? Tout est là dans les documents. Vous en avez pris connaissance et tout est inscrit. Enfin, tout est transparent. Hein.
Oui,
je ne vais pas vous donner chaque enveloppe, chaque facture de ce qui se passe sur notre commune.
Pas chaque facture, mais ça c'est...
Vous l'avez, tout est dedans.
Non, là, il y a
C'est déjà pas mal que... Enfin, de toute façon, c'est même normal que vous ayez ce genre d'informations. Mais oui, c'est tout à fait logique.
J'ai eu peur, oui.
Non, mais je ne vais quand même pas vous donner des factures de tout ce qu'on fait comme dépenses et me justifier sur toutes les dépenses que je fais. Tout est transparent, tout est clair. Et le percepteur le valide, hein, y a pas de souci. Hein.
Oui, mais en tant qu'élu, on a le droit quand même de savoir...
Vous avez. Les dossiers sont là, vous les avez, comme tout élu.
Donc, il faut faire une demande écrite pour avoir le détail du poste 62-36. On a quand même le droit d'avoir le détail des postes.
Monsieur le maire, je peux donner...
Vas-y, je t'en prie.
Donc, il y a pour la communication, donc le Triscope. Hein. Ensuite, il y a les programmes culturels, tout ce qui est vernissage, tout ça. Au niveau général, vous avez les agendas, l'état civil, les livrets, les guides pour les mariages, les pages de registre. On a aussi au niveau formation, insertion, handicap, les flyers. Au niveau du sport, bah là, ça a été annulé du fait que bah, la course de la paix ne va pas se faire. Donc là, on a retiré les crédits. Donc voilà. C'est les principaux principales choses.
Bon. Vous les avez arrêtés, on ne va pas donner de détails de tout, on ne va jamais s'en sortir. Bah ouais, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est la commission des finances, oui. Il y a d'autres questions sur l'Europe?
Oui, juste deux petites questions.
Pardon. Monsieur le maire.
La ligne 67, charge exceptionnelle, y a-t-il une raison particulière pour qu'elle soit, pour qu'elle ait été multipliée par deux ou deux et demi?
C'est quel document?
La ligne 67, l'orientation, l'annexe 6.
Annexe 6, merci.
Oui, la ligne 67, charge exceptionnelle, ça a presque triplé.
Oui, alors là, c'est... je vais donner le détail, monsieur le maire.
Oui, enfin, le détail, pas les factures, le détail.
Alors, dans ce chapitre, vous avez les bourses communales. Les aides aux étudiants, vous avez accepté.
D'accord. Hein.
Les livres de fin d'année, et puis les gratifications qui sont faites pour les écoles.
Oui, c'est ce qui est fait chaque année. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ça a été multiplié par deux et demi.
Parce qu'il y avait aussi l'aide aux étudiants qui ont été...
S'estimerait à ce montant-là, à plus de 20 000 euros.
Il y a ça, oui. Et puis les gratifications, je ne sais pas si je peux...
Oui, il y avait en commission une discussion sur les tablettes. Oui.
D'accord,
oui,
c'est ces histoires de tablettes, ça serait... Okay.
Ça se chiffrait.
J'ai eu le compte rendu.
Sur les calculatrices, alors.
Non, mais on avait une réflexion sur les deux.
D'accord.
On avait travaillé sur les deux. Une calculatrice ou une tablette.
Ça passe pas les tablettes, alors, du coup.
Et l'ensemble de la commission s'était positionné sur une tablette. Vous aviez dit, non, nous, on préfère une tablette.
D'autres questions?
Oui, alors la tablette neuve ou recyclée? Back Market ou d'autres sites, hein, recyclage, c'est quand même sympa. Parce qu'une tablette de basse qualité, en général, non. Bah, c'est la troisième tablette de la maison, peut-être.
C'est pas une tablette de basse qualité.
Ok. Bon,
ouais, vu le prix, j'espère non.
Bah, j'aurais juste sauté que ce soit une tablette recyclée. Voilà, parce que bon, mon matériel électronique, tout est recyclé. Ça coûte moitié prix, ça a le même taux de garantie.
Qui puisse être utilisé au collège avec les enseignants. Voilà, et qui puisse durer les 4 ans du collège, par exemple.
Ça, D'accord. Moi, j'avais deux petites choses sur les chiffres, parce que c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il faut bien s'y mettre. Fêtes et cérémonies 2020, 6 mois de confinement, 230 000 euros. Fêtes et cérémonies. J'ai fait une sacrée farandole, hein.
C'est une ligne budgétaire, et vous savez qu'on peut faire des décisions modificatives, mais à un moment donné, moi, l'avenir, je le connais pas.
Alors... Non, c'est sur réaliser 2020.
Ah, excusez-moi.
Non, c'est, alors, c'est pas grave.
On a un peu de détails, non, de fête cérémonie 2020, hein, 2020.
Ouais, 230 000 euros, qu'est-ce qu'on a eu comme fête? La piscine? L'anniversaire de Philippe Poteau? Ton anniversaire, je vais vous dire un truc. Bah oui, il n'y a pas eu de fête. Alors 230 000 euros, c'est quoi alors? Tu sais, toi, tu dois savoir. C'est... T'as rien dépensé, toi?
On va, Christophe.
C'est pas Monsieur Poteau qui a dépensé.
On va regarder et on vous apportera la réponse. Comment? Le quoi, le?
Et puis.
On l'a pas là, honnêtement. Mais on va vous répondre.
D'accord. Bah, c'est, voilà, j'ai aucun doute sur la sincérité et l'exactitude des chiffres, mais c'est.
Ça fait déjà un an. Hein.
Ouais, ou deux mois.
Il y a peut-être une. C'est quoi? Non, ben le mieux, c'est de vous donner les éléments.
Et puis, j'avais un dernier chiffre me concernant. Alors après, il y aura Nathalie qui en a 12 et Alain qui en a encore 28. Éclairage public. Alors, c'était juste une remarque que j'avais fait à Kamel en réunion, en commission, la semaine dernière. Éclairage public, 200 000 euros. 199 898. Et je lui avais posé la question, est-ce qu'il est possible de mettre des détecteurs de présence pour allumer les éclairages publics de voirie différenciés par rue. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui roule, la lumière est éteinte, quelqu'un arrive, ou un piéton arrive dans la rue, la lumière s'allume et s'éteint. Et je me dis, à 200 000 euros par an, ça en ferait des aides pour les moins 25 ans, enfin, par exemple, ou pour les étudiants, ou pour les personnes âgées. Enfin, voilà. C'est une sacrée somme, et après, ça basculera en investissement, puisqu'on pourra investir pour mettre des détecteurs de présence, piétons et véhicules. Bon, c'est juste une suggestion.
Après, pas du tout d'éclairage dans une commune, dans des quartiers, c'est peut-être inciter les cambriolages, hein, ou les dégradations.
Un cambrioleur est comme nous, il a besoin d'une lampe de poche et il ne voit pas clair dans le noir.
Prends ton micro.
On en a parlé en commission des travaux. C'est-à-dire ces 200 000 sont l'éclairage et aussi les refontes vers aussi la transition énergétique, moins consommée. On est vraiment dans l'environnement, on est vraiment à moins consommer, à moins dépenser sur les crédits de fonctionnement, je veux dire, sur la partie électricité. Bien sûr, certains secteurs, on l'a dit en commission des travaux, pouvoir remettre des détecteurs, par exemple, sur la place du Poirier ou certains secteurs où on n'a pas lieu, place du Fort, on n'a pas lieu d'éclairer jusque toute la nuit. Mais il faut savoir que c'est des LED. Les LED, ça ne consomme pas beaucoup. On est déjà fortement baissé en consommation. L'objectif aussi, c'est de la transition vers la performance énergétique. On est en plein dedans. Donc c'est quand même baisser à tout prix des crédits de fonctionnement. Ça a un sens.
La performance énergétique, c'est pas de baisser la facture de l'énergie. La performance énergétique, Thibault, tu peux expliquer. La performance énergétique, c'est de polluer moins visuellement. C'est d'éclairer moins. C'est ça, la performance énergétique. C'est de trouver une transition. Elle est là, la transition. Elle n'est pas d'en payer moins. L'objectif de la transition écologique, c'est pas de payer moins. C'est de polluer moins. Alors après, je ne sais pas, c'est une vision politique. Moi, je peux en discuter ou avec Dominique ou avec la commission de travaux, avec Jean-Paul. Il n'y a aucun souci. On peut éclairer un pylône sur deux. On peut envisager plein de choses ensemble si vous êtes d'accord pour y travailler. Mais moi, je vois la somme de 200 000 euros. Et je me dis, non seulement on pollue visuellement avec de l'éclairage, même si c'est du LED au top énergie, que ça consomme 11 fois moins à peu près, c'est à peu près ça chez un particulier, ok, ça consomme, on paye moins, mais on pollue autant.
Mais Christophe, tout ça, c'est des débats que vous pouvez avoir en commission. Après, je sais que chacun a ses obligations. Venez dans nos commissions, dans les commissions, et travaillez sur ces sujets-là.
Mais moi, je viens dans mes commissions, monsieur le maire, quand je ne travaille pas.
Bah, la finance, on l'a faite, tu n'étais pas là, Christophe.
Mais je travaillais, monsieur le maire.
Et après, dans les travaux...
Je finis le soir à 23h, je ne peux pas faire autrement.
Ah ouais, tout le
vous
ne
voulez ouais. pas qu'on se remplace l'un l'autre.
Tout le monde travaille, tout le monde a des obligations.
Mais les travaux, j'y étais,
mais là,
et
vous
je
êtes
n'avais
en train
pas connaissance
faire une
du
commission
montant.
Travaux, une commission environnement, alors que ce n'est pas le lieu. Aujourd'hui, c'est un conseil municipal, on passe des délibérations. Voilà, il faut qu'on avance sur nos dossiers de ce soir.
Je voulais mettre en lumière les 200 000 euros, un montant qui me semble pharaonique et qu'on peut réduire. C'était une suggestion pour monsieur le premier adjoint.
Parlez-en en commission, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres questions celle à Nathalie, les 12 hein.
Pour ma part, une seule question. Au dernier conseil municipal, on a voté à l'unanimité la mise en œuvre du RIFSEP.
Oui.
Est-ce que cela apparaît sur une ligne budgétaire précise? Est-ce que vous pourriez m'indiquer laquelle?
On va te répondre, mais oui, elle appartient sur une ligne, ça c'est certain. C'est sur quelle ligne?
Le RIFSEP, ça doit être sur autre indemnité, je pense.
Alors c'est quel dossier? Quelle feuille? L'annexe
la page
quoi
4.
Page 4 de l'annexe.
L'annexe 6.
Annexe 6. Ouais, page 4. Rien, c'est trop petit.
Le 13e mois,
c'est pour voir mon
droit. Les indemnités.
Ah ouais.
Oui, c'est globalisé avec les salaires. Ce n'est pas une ligne bien spécifique pour le RIFSEP. C'est compris. C'est-à-dire que M. le maire a la responsabilité de. Enfin, il n'y a pas de cadre, enfin, il n'y a pas de limite. Il y a la limite correspondant avec les salaires.
Oui,
c'est ça.
Oui.
C'était juste ça, ma question.
On a des grilles, hein. Même si je voulais récompenser plus mon personnel, je suis pas limité, mais il y a des règles.
Donc c'est compris. Vous pouvez me répéter le numéro de la ligne, juste
641, votre
annexe 6, page 4.
Merci.
J'ai plus de questions, monsieur le maire. Mais juste pour dire qu'en commission travaux, on envisage la dépense pour poser les lampadaires. Et ici, on parle de la dépense en électricité pour éclairer les rues. Donc on n'a pas accès à ces 200 000 euros pendant les commissions travaux, monsieur le maire. Si vous veniez en commission travaux, vous le sauriez.
Mais tu peux avoir des documents et puis poser des questions. Hein. On n'est pas fermé à ces choses-là. Bon, donc plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Amélioration de l'habitat et acquisition des résidences principales. Ah oui, c'est le fameux prêt au personnel où la Chambre régionale des comptes nous avait demandé de mettre des critères pour pouvoir octroyer cette possibilité d'emprunt hein, à taux très faible. Donc pour le prêt de l'amélioration de l'habitat, c'est 1525 euros. Ça, on l'avait déjà voté dans des délibérations précédentes. Et pour l'acquisition de sa résidence principale. Donc là, aujourd'hui, on nous demande, la Chambre régionale des comptes, de mettre un genre de plafond, de mettre des critères. Donc on a repris l'agent titulaire dont l'impôt sur le revenu de foyer ne dépasse pas 915 euros. Impôt de l'année N-1 aura la possibilité de faire cette démarche d'emprunt pour les différentes choses dont il en a besoin. On a regardé au niveau de notre personnel si ça avait un impact important en mettant ce plafond. Et à quelques pourcentages, les gens qui ont des possibilités autres que des smigaires ne sont pas trop concernés et n'en font pas la demande. Donc ça n'a pas vraiment d'impact négatif sur notre personnel pour pouvoir leur octroyer ces prêts possibles et avantageux. Le but, c'est pas de les défavoriser non plus, mais bon, on doit mettre un critère, on l'a mis. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Commande publique. Alors, je vous demande l'autorisation de lancer un nouveau marché dont le besoin est estimé au montant annuel de 395 000 euros hors taxe. Ce marché sera lancé pour une durée de 3 ans, renouvelable chaque année par tacite réduction, et ce, à compter du 1er janvier 2022. Je vais quand même demander à la technicienne Aurore d'apporter quelques précisions, parce que vous n'avez pas le détail, mais il y a quand même des choses qui ont été instaurées dans ces appels d'offres. Aurore, tu veux bien ? Merci.
Oui. Merci, monsieur le maire. Donc ce marché sera passé pour 3 ans. On a alloti ce marché, on a une dizaine de lots. On n'a absolument aucun montant minimum pour éviter de devoir verser une indemnité à un fournisseur si on n'atteint pas ce montant minimum. Ensuite, dans le cadre de ce marché, nous allons renforcer les obligations des fournisseurs vis-à-vis du respect des lois Egalim et aussi vis-à-vis du suivi d'exécution du marché. Alors, au niveau de la loi Egalim, nous avons une obligation d'avoir 20% de produits biologiques sur le montant total de nos achats hors taxes de l'année. Donc, savoir comment ce contrôle sera effectué, je ne peux pas vous le dire puisque l'arrêté n'est pas encore sorti. Et c'est une obligation qui sera effective à partir du 1er janvier 2022. Ensuite, à l'heure actuelle, nous travaillons beaucoup sur le plan local avec des denrées alimentaires saveur or. Et on va continuer et développer ce point, notamment en espérant toujours l'avoir sur le lot viande. Donc, voilà.
Merci, Aura. Y a-t-il des questions ? Christophe ?
S'il vous plaît, monsieur le maire. Qualité or, c'était un label HVE, en haute valeur environnementale, sur la qualité alimentaire. C'est peut-être la loi dit peut-être, et le décret n'est pas encore sorti, 20% de produits et denrées biologiques. Peut-être on pourrait marquer le coup, puisque nous sommes une municipalité écologique et biologique, de faire du bio à 100% dans les cantines et de proposer, pourquoi pas, un repas sans viande dans la semaine. C'est à étudier.
Y a-t-il d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, service du personnel, augmentation de la participation communale aux mutuelles labellisées pour l'année 2021. Donc, vous avez donc le projet. Comme indiqué dans le projet de délibération, je vous propose d'augmenter la participation communale de 2% à compter du 1er janvier 2021, chose qui se faisait systématiquement auparavant. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de repasser chaque année une délibération pour pouvoir octroyer ce pourcentage supplémentaire au niveau de nos personnes. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Action sociale, adhésion au pass territorial du CDG 59. Donc la commune a adhéré au pass territorial du centre de gestion du Nord pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Il nous est proposé d'adhérer un nouveau contrat cadre pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2021. Ce matin, nous avons donc une réunion de CT pour lequel l'avis favorable a été donné. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Service technique, convention de groupement de commandes pour l'enlèvement et le traitement des dépôts sauvages entre la ville et le SIAVED. Donc, je vais laisser la parole à monsieur le premier adjoint pour ce sujet.
Alors, c'est une convention de groupement de commandes pour l'enlèvement et le traitement des dépôts sauvages entre la ville et le SIAVED. Notre collectivité, au même titre qu'un grand nombre de collectivités émanant du SIAVED et particulièrement de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, est souvent confrontée de manière récurrente en matière de dépôts sauvages ménagers ou assimilés et ou amiantés. Par le biais de cette convention qui nous est proposée par le SIAVED, et cela afin de mutualiser les coûts générés par ces incivilités, il nous est proposé un groupement de commandes par celui-ci en qualité de coordinateur et au sein duquel la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, la communauté d'agglomération du Caudrésie-Côte-Cathésie, le CA2C, la communauté des communes du Cœur de l'Ostrevent, CCOC, et les communes formant ce périmètre pourraient adhérer. Cette convention reprend l'ensemble des dispositions administratives, techniques et financières pour ce groupement de commandes proposées. Conformément à l'article 3, chaque membre du groupement prend en charge la commande et le paiement des interventions relevant de sa compétence, par exemple le tri, le traitement, etc. La durée de cette convention est celle de la durée du mandat municipal.
Merci, Monsieur le Premier adjoint. Y a-t-il des questions ? Vas-y, Nathalie, micro est en face de toi.
La commune, alors c'est vrai qu'on est confronté. Hein, c'est des charges sauvages, elles se multiplient.
Avec les caméras, ça va s'atténuer. Je peux penser un peu d'humour. Hein.
Non, mais c'est vrai. Si elles pouvaient servir avant tout
où,
à ça.
Il y a des secteurs, entre autres, mais je pense qu'une caméra, ça peut être utile.
Mais vous ne les avez pas mises là, les caméras?
Ah bon, on est déjà à 500 000, on va petit à petit, mais non, on ne va pas mettre des caméras dans toute la ville.
Peut-être qu'il aurait fallu faire d'autres choix, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus.
Quartier des artistes, c'était un sujet aussi très important.
Alors, on va payer pour retirer, hein, pour enlever ces décharges sauvages.
Les villes qui vont solliciter le CIAVED, il y aura un enlèvement et on paiera le traitement, bien sûr.
Oui, mais alors ça veut dire qu'on va retirer des déchets qui sont déposés sauvagement et pour lesquels il existe une législation, hein, qui amende. Donc est-ce que finalement en enlevant...
Moi je passe pas mes nuits dehors.
Est-ce qu'en enlevant ces... Non mais je comprends, hein, la solution...
Je vais te donner un exemple. Et
mais
c'est même certain.
C'est quand même problématique cette
démarche. C'est problématique.
Parce que est-ce qu'on ne va pas finalement inciter... le dépôt sauvage, puisque bah, ils vont se dire c'est bon, on les met,
alors,
ils les retirent. Après
non, mais non. Aujourd'hui, ça se fait déjà. Il y a des dépôts sauvages qui sont repérés, pour lesquels nous, la mairie, on fait intervenir. Parce que quand on parle d'amiante, c'est pas n'importe qui traite l'amiante et c'est pas n'importe quelle entreprise qui fait ce genre de traitement, mais d'enlèvement, parce qu'il y a toute une procédure qui est même compliquée. Parce que quand je demande un dépôt sauvage d'amiante, il faut faire un courrier, il faut faire une demande. Ça prend facilement 15 jours, si je ne me trompe pas.
Ben oui, parce que c'est risqué. Hein.
Voilà. Mais après, l'idée de cette convention avec le CIAVED, c'est déjà qu'on ait un moindre coût pour chaque collectivité qui adhère. Et c'est aussi, eux, les professionnels qui peuvent exécuter ce genre de travail. Et nous, quelque part, OK, on ne souhaite pas qu'il y ait des dépôts sauvages sur notre commune, malheureusement. Mais à un moment donné, sur l'eau, c'est une facilité pour nous. Et c'est un traitement opéré immédiatement. Que d'avoir toute une procédure longue qui fait qu'on doit faire des dossiers comme ça pour retirer un peu d'amiante sur notre territoire qui est en dépôt sauvage. C'est
mais
surtout l'amiante le problème,
mais
bien
alors,
sûr.
Si les entreprises vont décharger n'importe où leur amiante, c'est parce que ça coûte cher d'aller le déposer parce qu'il y a un traitement.
Alors qu'il y a enfin là c'est plus pour les particuliers, mais il y a un service amiante au niveau de la CAPH où tu achètes un genre de big bag qui coûte l'enveloppe une trentaine d'euros maintenant, et les gens, les particuliers peuvent traiter leur amiante. Maintenant, oui. C'est des entreprises, pour moi, c'est un peu des auto-entreprises ou des entreprises, genre, sans faire discrimination, genre du voyage qui facilement font ce genre de choses. Si.
Bon, oui, mais il faudrait les voir pour savoir exactement. On peut pas accuser sans preuve. Mais bon, finalement, peut-être qu'il faudrait baisser le coût pour les entreprises et les inviter à aller mettre leur amiante directement à cet endroit où ils paieraient moins cher. Et au moins, on n'aurait pas à aller ramasser leur cochonnerie.
C'est un problème, malheureusement. Et
c'est un problème.
Là, vous pouvez constater aujourd'hui sur la route LME. Alors, c'est pas que je veux... C'est mon territoire, pas mon territoire. Mais à un moment donné, c'est pareil. La ville de Trier, elle peut pas non plus traiter les dépôts sauvages de toutes les communes. Mais je ne cesse de dire au maire de la Sentinelle, t'as un dépôt et le dépôt, il s'amplifie. Et j'essaye de passer par là, mais c'est sûr que je passe pas toutes mes nuits à vérifier qui dépose l'amiante. Hein. Mais c'était M. Lagage une fois qui m'avait interpellé. Malheureusement, on a peu le temps de relever la plaque, mais il y avait un administré qui avait constaté, et quand je me suis permis de dire une catégorie de personnes, ils avaient vite béné et ils se sont vite sauvés, et c'était quand même des gens qui sont dans ce domaine-là. Les pots d'amiante, les temps de tri.
Qui puis nous, on connaît une entreprise qui a aussi déchargé des
Je sais de quoi vous parlez, c'est pas du tout ça le problème.
Ah ouais, mais si, on, avec photo à l'appui.
Non, bah oui.
Au tordoir.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On en vient aux questions. Donc, vous me posez la question du poste vacant du service jeunesse. Ben, le poste, il n'est pas vacant. Hein. Le service jeunesse, il tourne, il y a du monde, c'est géré, on fait les choses. Il y a un séjour bientôt au mois d'avril.
Non, mais on ne parle pas du non-fonctionnement du service,
non,
mais de la personne qui va s'occuper du service, puisque Anne-Marie, elle est maintenant à notre poste. Oui, qui va s'occuper de la petite enfance, de l'enfance.
Vous pourriez me poser la question pourquoi il n'y a pas une responsable du cabinet du maire. Mais à un moment donné, on a réorganisé nos services. On a justement fait revenir le service jeunesse dans les murs, les locaux de la mairie. Le poste n'est pas vacant. La personne qui faisait cette fonction continue à faire la fonction, même si elle a d'autres fonctions. Mais elle a aussi du personnel pour faire ses fonctions.
Ben,
c'est quoi le souci ?
Alors nous, on pense que ce service aurait besoin d'être développé davantage, d'autant plus que vous faites le projet de construire une structure destinée à la jeunesse.
Ce qui n'empêche pas
et
cela.
Comment ?
Ce qui n'empêche pas. On veut dire, le service, il tourne, les choses se font comme elles continuent à se faire. Il n'y a pas de point bloquant pour nous.
Bon, bah alors avant, il y avait une personne sur ce poste.
C'est une restructuration, c'est une réorganisation,
c'est une
répartition des tâches.
Quelle conclusion il faut en tirer, mais...
Bah, aucune. On essaye d'être au plus juste dans nos dépenses du personnel. On essaye d'engager notre personnel comme il peut être engagé. À un moment donné, je vois pas l'intérêt d'aller payer un salaire si j'en ai pas le besoin. On aurait pu remplacer la collaboratrice du maire, j'en ai pas eu le besoin non plus. Donc à un moment donné, l'argent du contribuable, il faut faire très attention. Et les dépenses sont justement très justifiées et il n'y a pas nécessité de grossir les effectifs, comme la Cour des comptes pourrait aussi nous dire que par rapport à une ville comme Trissin-Léger, on a beaucoup d'effectifs.
Donc ça veut dire que des dépenses ont été faites de façon inconsidérée.
Pas du tout.
Puisqu'on réduit drastiquement.
C'est une réorganisation.
Et nous, vraiment,
il y a du personnel en place, le personnel fait son travail et ça fonctionne très très bien comme ça.
Bon, on verra ça. Et oui, donc vous voulez construire un bâtiment destiné à la jeunesse.
On va le construire ensemble.
Oui. Et alors, quand est-ce qu'on commence à réfléchir ? Parce qu'on lance des études, mais il faudrait savoir ce que l'on veut faire en matière d'accueil de la petite enfance et de l'enfance. Et on s'aperçoit que c'est un sujet crucial, qu'aujourd'hui, à Trissin-Léger, dans une ville de 6500 habitants, il n'y ait pas de structure d'accueil de la petite enfance. C'est bien dommage.
Donc 6278 habitants. Et on va travailler ensemble.
J'arrondis, excuse-moi.
Et par rapport à ça, il y a, comme j'ai dit précédemment, déjà, il y aura un groupe de travail, il y aura une discussion, il y aura un échange. Ça va se mettre en place. Il faut déjà aussi qu'on vote le budget pour pouvoir avoir cette ligne budgétaire, pour pouvoir commencer à lancer les opérations.
Oui, mais un travail de réflexion, de discussion, un groupe de travail ne demande pas de dépenses particulières.
Non,
c'est une réflexion sur la politique à mener en matière de petite enfance et d'enfance.
Mais après, on ne va pas prendre 6 mois non plus pour faire un groupe de travail. Ça va se mettre en place. Et vas-y.
La question a déjà été posée en commission.
Le micro, DJ.
J'avais répondu. Mais la question avait été posée en commission et j'y avais répondu. Donc le groupe de travail va se mettre en marche. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons proposer à la population. Mais au préalable, avant de se mettre autour de la table, il faut que j'arrive avec des éléments sur lesquels on puisse s'appuyer et sur lesquels on puisse réfléchir. Parce que moi, je veux bien demain matin faire un groupe de travail, mais si je n'ai rien à vous présenter, voilà. Donc,
nous présenter.
Il faut qu'on fasse déjà, qu'on regarde les besoins.
Les besoins.
Bah voilà.
Voilà,
oui.
Qu'on regarde les besoins, et ce que l'on souhaite proposer par rapport à ses besoins.
Bah oui,
mais le projet verra le jour.
Oui, bah ça, voilà. On espère bien.
Non, mais parce que la question, elle est récurrente, mais on fera toujours la même réponse.
Mais c'est parce que nous sommes impatients que les choses avancent dans ce domaine-là.
J'ai mes techniciens comme Kamel qui me dit « Hé, doucement, hein, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis très impatient.
» Les problèmes qui se posent dans les écoles,
je sais. Hein,
et ensuite au collège, eh bien, ils sont liés à cet accueil des petits, parce que, de toute façon, Dominique, il le sait, on a participé tous les deux à un groupe de réflexion il y a quelques années.
C'est pour ça que je veux relancer ce projet, bien sûr.
Qui n'a pas abouti.
C'est dans notre programme.
Qui n'a pas abouti. Et maintenant, on en voit les conséquences dans les écoles et au collège. Donc, il est grand temps qu'on s'y attelle et qu'on mette en place d'abord une réflexion pour réfléchir aux besoins. De toute façon, on connaît la procédure. On l'a déjà faite.
Donc, par expérience, on sait comment commencer.
Donc, par expérience, tu sais qu'il faut d'abord un groupe de réflexion, de travail, en y intégrant justement les parents d'élèves, les assistantes maternelles. Et après, on peut lancer une étude quand on sait ce qu'on veut faire.
Voilà. Mais on est sur la même longueur d'onde. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas de...
Voilà,
problème.
Donc c'est pour ça que nos questions sont récurrentes, parce que on ne voit pas les choses arriver. Donc, vous nous rassurez, vous nous dites que c'est imminent. Et puis, par ailleurs, on aura besoin d'une personne tout entière disponible à la tête du service jeunesse pour mener ce projet. Hein.
Alors, la question suivante, c'est concernant donc, le CM sur les statistiques mensuelles. Donc, j'ai envoyé mon service, mon adjoint à la sécurité, convie. Donc, c'est M. Alain Lambert qui participe à ce genre de réunion. Donc, il y aura une réunion le 17 mars, je ne sais plus quelle heure, 16h30, quelque chose comme ça. Vous aurez en face de vous donc Mme Véronique Parent, qui est la vice-procureure, les nouveaux référents du commissariat de Valenciennes, parce que ça a changé récemment. Donc, il y aura tous les interlocuteurs qui seront présents pour pouvoir s'exprimer, avoir des réponses à nos questions. Et tout ça, ça pourra vous être dit le jour de cette séance de travail. Surtout. J'y tiens. Alors, après, la question suivante, par rapport à votre demande sur l'inventaire des 50 000 m² bien immobiliers. Donc, la réalisation de cet inventaire est une tâche fastidieuse. Je pense que je vous apprends rien. On s'y attelle, mais aucune échéance ne peut être donnée à ce jour parce que c'est un gros, gros travail à mener. Néanmoins, la partie travaux a été entièrement intégrée dans l'inventaire en partenariat avec la trésorerie. La question suivante, au niveau de l'espace vert près de la Grange Trinquet. En ce qui concerne cet espace, comme vous pouvez constater, c'est dans les documents de ROB, un crédit prévu de 30 000 euros TTC pour commencer à porter une réflexion sur la place. Alors, c'est tout un ensemble, la place Auger Savoie-Groux et ses abords. Bien évidemment, cet espace fait partie intégrante, hein, des abords de la place. Les aménagements futurs qui en découleront feront l'objet d'une autorisation de programme, crédit de paiement. Vous comprendrez par conséquence que cette réflexion pour nous mener à examiner plus précisément cet aménagement qui reprendra forcément le côté environnemental, écologique et biologique. On n'a pas de souci avec ça. Hein. On n'a pas de souci avec ça. La question 5. Donc là, c'est celle par rapport... la réunion où j'ai convié les administrés de la rue Jean Jaurès et de André Gourdin. Donc à savoir que, en ce qui concerne la rue Jean Jaurès et André Gourdin, Il y avait donc été exposé lors de la commission travaux du 18 juin 2020, la vue d'ensemble. Donc les élus ont été informés de ce projet. Ils ont eu connaissance de ce projet. Commission du 18 juin 2020. Donc, en fait, pour moi, c'était période Covid, hein, on dit dans une réunion publique où j'étais moi présent, l'adjoint aux travaux, logique, et le technicien, mais c'était vraiment une réunion avec les administrés, et les administrés pouvaient, bien sûr, participer à cette réunion. Maintenant, on va organiser, comme on l'a dit lors de cette rencontre, par portion, parce qu'on est toujours en phase période Covid, distanciation, on va faire des petits groupes d'expression de ces personnes sur leur trottoir, en fait, face à chez eux, pour pouvoir, avec eux, se mettre bien d'accord de ce qu'ils souhaiteraient qu'on puisse mettre en place, si c'est possible, bien sûr. Mais bon, on a eu cet échange et ça s'est très, très bien passé.
Dites, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on fait des travaux dans une rue, on fait toujours une réunion publique à la salle des fêtes. On invite les gens, bien sûr, de la rue pour s'exprimer. Et puis nous, on vient avec nos plans pour leur montrer ce qu'on désire faire. Peut-être certainement avec des propos des riverains qui peuvent changer ça et là. Mais sachez, à ces réunions-là, il n'y a jamais des élus qui viennent, sauf moi, bien sûr, sauf moi qui est là. Et puis t'entends le maire. Il venait aussi. Pas toujours. Mais c'est pas. Ouais, mais je veux te faire comprendre que ce n'est pas les mêmes réunions que tu as eues publiques au mois de juillet, avec toujours M. le maire. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes réunions. C'est ça que je voulais ajouter. Bon. Non, mais je voulais préciser. Hein, c'était ça.
Merci Jean-Paul. La dernière question, oui, bah, le food truck. Donc peut-être Alexon, petite précision sur le food truck. Tu peux ? Tu veux, tu peux ? Tu veux un micro ?
Donc pour le food truck panier vitamine, M. Prévost m'a fait une demande écrite pour se placer précisément sur la place de la Résistance, en fait. Hein. Pour apporter, en plus de la boucherie, un service supplémentaire. Par contre, il se propose, lui, il fait de la livraison et des points retrait. Donc, pour lui, il n'y a aucun souci pour livrer à Tri-le-Poirier, puisque la question, c'était pourquoi pas Tri-le-Poirier. Donc, lui, pour l'instant, il n'a pas encore un créneau pour se positionner 2 heures semaine, mais ça se discute, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, il fait de la livraison, donc il peut livrer sur Tri-le-Poirier, sans souci. Bah, je pense qu'on peut communiquer sur le
tout, il n'y
a aucun souci, mais je pense que les personnes...
Le collectif est au courant. Le collectif est au courant, parce qu'il m'avait posé la question. Willy Dance. Oui, c'est ça. Non, c'est le commerçant qui diffusera sa publicité. Ouais. Je ne peux pas m'ingérer dans ce genre de choses. Mais oui, on lui
Après,
a émis,
c'est,
émis la,
voilà,
la
c'est
possibilité.
C'est le commerçant qui m'a fait une demande pour une place. Hein.
Ah, bien sûr.
Oui.
Je ne peux pas favoriser plus l'un que l'autre. Non, mais je veux dire, je ne peux pas faire de la pub pour les commerçants sur la commune. Ou alors, il faut que je le fasse pour tout le monde. Et après, c'est ça. Ah bah moi, je suis favorable. Hein. Et après, comme je dis, il faut aussi que s'il y a un souhait sur le poirier, il faut que les gens jouent le jeu. Parce que ce monsieur, bon là, tri, moi je participe parce que j'aime bien ses mandarines. Mais je veux dire, voilà, il y a des produits de qualité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens puissent y acheter, enfin le faire vivre. Voilà, parce qu'à un moment donné, bah, s'il n'y a pas de client, il ne va pas rester. Hein.
C'est ça, après, la livraison est gratuite à partir de 20 euros d'achat. Donc après, il a un site, on peut commander. Bon, après... Il n'y a aucun problème là-dessus.
Oui, bien sûr.
Fait,
oui, il y en a
c'est
deux.
C'est complémentaire.
On en a parlé. C'est complémentaire. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a aucun
mais
souci.
Mais oui, le but, c'est pas faire de l'ombre aux associations. C'est pas du tout.
C'est pas de l'ombre, c'est bénévole.
Voilà. Non, mais c'est ça. On veut du commerce à tri. Bah, on essaye de faire venir du commerce. Et ce monsieur s'est proposé, on l'a accueilli les bras grands ouverts. Maintenant, il faut qu'il vive aussi pour pouvoir continuer à venir chez nous. Et j'espère qu'on essaiera de développer le futur marché, ce qui n'est pas simple, attention, hein, parce que des marchés, il y en a un peu partout. Et après, il faut que les gens gagnent leur croûte pour pouvoir venir quelques heures sur les surfaces. C'est compliqué. Mais j'ai pas de souci avec les associations tritoises, loin de là. Tant mieux, c'est même bien. Tant mieux.
Oui. Bien sûr, il n'y a aucun souci.
Exactement ça.
Sur le parking même, ce ne sera pas possible, hein, puisque si je ne me trompe pas, il va être fermé. Mais sur la petite place, effectivement, je pense que... Bon, bien sûr, après le 31 mars, bien sûr.
Bien, nous sommes arrivés au bout de notre conseil municipal, donc je déclare la séance levée. Bonne soirée à tout le monde, merci de votre participation et à très bientôt pour le futur conseil municipal pour le budget.